Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Au sommaire ce soir dans Au bout du foot, l'Olympique de Marseille en plein tumulte. Est-ce que Pablo Longoria tiendra bon jusqu'à la fin de la saison? La question est posée. Après un départ fracassant de Marcelino, la gifle reçue par le Paris Saint-Germain, voilà que Gattuso débarque à l'OM. Grosse prise ou coup de poker? Nous posons la question au chroniqueur. Jonathan Clauss au sommet de sa forme, mérite-t-il un appel de Didier Deschamps? Coupes européennes, les clubs français restent invincibles en Coupe d'Europe lors de la première journée. Est-ce un signe prometteur pour cette saison? Nos experts vous éclairent de leur savoir. L'Olympique lyonnais en perdition. L'Olympique lyonnais s'enfonce dans les abysses après sa défaite contre Brest. La Ligue 2 menace-t-elle les Gones? La question qui fait trembler les supporters est posée. Après 6 journées de championnat de Ligue 1, osons-nous prédire le top 5 final? Nos chroniqueurs se lancent dans l'exercice périlleux. Rendez-vous dans la chronique. Quel choix? Pour quel résultat? Cristiano Ronaldo brille en Arabie Saoudite. L'étoile CR7 continue de scintiller avec un récent doublé. Faut-il prendre au sérieux le championnat saoudien dans la course au Ballon d'Or? La question qui agite le monde du foot est posée ce soir. Commentaires, analyses, décryptage, pronostics audacieux. Installez-vous et soyez prêts à être immergés dans l'univers fascinant du ballon rond et plongez avec nous dans Au bout du foot. Première saison, deuxième épisode.
Bienvenue, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Au bout du foot. On l'a dit, deuxième édition du genre Au bout du foot, une émission réalisée par Jason Lindor. Et puis nos chroniqueurs sont là, fidèles au poste. Prêt à débattre, hein. On est d'accord les amis. On va remercier notre ami Philippe Carnu. Comment ça va?
Ça va très bien.
Présentateur de Mon Paris Sport sur Mon Paris FM. Bienvenue Philippe.
Pour parler de foot tout le temps.
Ça tout va. Le temps. Hein.
Tout le temps, tout le temps.
Notre rédacteur en chef Aboubacar Konté. Bien le bonsoir.
Bonsoir Malik Eddy.
Bien.
Ça va.
Bien en forme.
Un peu fatigué mais ça va.
Il est chroniqueur sport football. Hein. C'est plutôt football ou football on dit?
Football.
Football, hein, n'est-ce pas? Chroniqueur football sur Mon Paris FM. Salut Eladj.
Salut Malik.
Bien, tu vas bien?
Ça va, super.
Supporter du PSG aussi, on peut dire ça ou pas?
Non,
hein, on peut pas dire ça.
Je suis là en tant que chroniqueur.
Stéphane Desenclos du quotidien du sport. Salut Stéphane.
Bonsoir à tous.
Ça va? Bien.
Ouais, ça va, nickel.
Bonne semaine les amis.
Ah bah oui, elle a bien commencé.
Et puis on a un invité avec nous, Salé Dembélé. Il est amateur de foot, il est supporter du PSG. Bonjour, bonsoir Salé.
Bonsoir Malik.
Ça va bien?
Ça va, ça va.
La forme?
Ça va, merci.
Alors les amis, hein, vous avez entendu le sommaire, mais juste avant le sommaire, on va rentrer dans une nouvelle rubrique justement de l'émission Au bout du foot. C'est 30 secondes chrono. On va justement lancer le décompte. Et puis qui c'est qui va prendre la parole tout de suite les amis? 30 secondes chrono, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, un fait malheureux, un fait heureux?
Alors, Philippe Carnu, un seul fait?
Top chrono, c'est deux. Parti.
Un seul.
30 secondes, on ne dépasse pas
alors,
les 30 secondes.
Je vais changer un peu, je ne vais pas parler de la crise de Olympique de Marseille, je vais simplement parler du non-renouvellement donc, du football à Canal+, parce que nous on est d'une génération avec Stéphane où on a découvert la Ligue 1 à travers les matchs de foot donc, sur Canal+, match donc complètement différent, hein, une couverture différente. Donc Canal qui se retire de la Ligue 1, bah, c'est la fin d'une époque. Alors. Quelles que soient les raisons, chacun...
C'est bon, c'est fini.
C'est fini,
mon cher Philippe, merci. Canal qui se retire de la Ligue 1, ouais. Philippe n'est pas content.
Non.
Stéphane Desenclos, 30 secondes chrono, tu nous parles de quoi?
Bah, moi, je n'ai pas à être content ou pas content, mais je trouve que le fait de la semaine, incroyable, c'est la nomination de Gattuso à l'OM. Comment elle intervient? Comment elle est intervenue, cette nomination? Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne juge pas, je ne connais pas trop le coach que c'est, mais c'est quand même assez hallucinant. C'est un gros, gros coup, je pense, de Pablo Longoria. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 2-3 jours, on ne parle plus de Pablo Longoria, on ne parle plus des supporters, il n'y a plus de problème. Il y a M. Muscle qui est arrivé à Marseille, donc c'est un gros coup.
Stop. Ah, mais pile poil, ah, tu mérites un bon carton là.
T'as un joli... pro.
C'est un pro. Aboubakar, quel est ton fait marquant?
C'est coup parti. De gueule contre les supporters de l'Olympique de Marseille, Rachid Zeroual en tête. Je trouve ça honteux qu'aujourd'hui, en 2023, des supporters puissent avoir la main comme ça sur un club. Honteux qu'on puisse aller jusqu'à menacer un président de club. Je trouve ça honteux que des gens comme ça ne soient toujours pas écartés de l'Olympique de Marseille. Je trouve ça honteux surtout que l'Olympique de Marseille n'ait pas appris de ses erreurs précédentes, notamment lorsque Jacques Henriero avait été mis à la porte du club par ses mêmes supporters. Et c'est tout simplement honteux, Malik.
Oh, pile poil aussi, bravo.
J'avais talent, ça s'achète pas.
Mon champion Salé Dembélé, tu interviens sur quoi?
Alors moi j'interviens.
Face au micro.
Moi j'interviens du côté de l'Italie. Donc moi c'est plutôt le Napoli. Où je suis triste de voir que Osimhen il est pas respecté. Il y avait des vidéos TikTok qui sont sorties par le club en lui-même. Et qui sont très respectueux. Et surtout que Osimhen l'année dernière. Il a porté le Napoli et là cette année il est pas encouragé. Pourtant il fait un bon début de saison. Donc voilà.
Merci. Ah, pile poil aussi, hein. Et là, ils ont fini avec toi.
Ouais, moi du coup je vais revenir un peu sur l'actu de un peu tout le monde, hein. Franchement, ouais. Moi il y a Marseille, j'ai vu Gattuso arriver, j'attends de voir ce que ça va donner parce que dernièrement c'était pas fameux. Et côté Ligue 1, bon, moi je pense que Canal+ vont arrêter de diffuser la Ligue 1 plutôt parce qu'Mbappé s'en va l'année prochaine. Et pour parler de Naples, Victor Osimhen qui a été le roi là-bas et qui est encore le roi, ne l'ont pas respecté du tout. Et franchement, face à cette forme de racisme, je pense qu'ils doivent arrêter. Il doit arrêter rapidement de continuer ce qu'il fait là-bas et chercher un autre club beaucoup plus ambitieux.
Merci Eladio, on a parlé de l'OM en plein tumulte, on enchaîne tout de suite. Alors les amis, on l'a dit, hein, départ fracassant de Marcelino, le PSG qui défait l'Olympique de Marseille, Gattuso qui débarque à l'OM, c'est une grosse prise, c'est un coup de poker de Longoria, toutes ces questions sont posées aujourd'hui. Les amis, ensemble, hein, est-ce que vous pensez aujourd'hui que Gattuso aura un véritable impact sur les résultats de l'Olympique de Marseille? Et déjà, juste avant, mon cher Philippe, on va demander à notre ami Aboubakar de nous dire, hein, c'est qui Gattuso en bref?
On connaît tous le joueur, hein, je vais pas le représenter, Gattuso, très grand joueur de l'AC Milan, hein, des années 2000, énorme joueur. En tant que coach, Gattuso, il commence sa carrière le 25 février 2013, Malik, hein, au FC Sion. 12 matchs, 3 victoires, 4 nuls et 5 défaites après, Gattuso est limogé le 13 mai 2013. Il ira ensuite vers l'Italie, hein, son pays de naissance, le 19 juin 2013 à Palerme jusqu'au 25 septembre 2013, 8 matchs, 3 victoires, 1 nul, 4 défaites avant d'être limogé. Il ira ensuite vers la Grèce, 17 matchs, 5 victoires, 3 nuls et 9 défaites à Crète. Ensuite, il revient en Italie en 2015 jusqu'en juillet 2016, 41 matchs, 21 victoires, 14 nuls et 6 défaites. Il partira du club suite à des malentendus sur le mercato. Il ira ensuite à Pizze de septembre 2016 jusqu'au 20 juin 2017, 43 matchs, 6 victoires, 21 nuls et 16 défaites avant d'aller au Grand Milan, le Milan, hein, son club de toujours à Gattuso, lui qui est considéré comme une légende des Milan, 83 matchs, 41 victoires, 22 nuls, 20 défaites. Il ira ensuite à Naples où il remportera son premier titre majeur, Coupe d'Italie avec le Napoli, 81 matchs, 47 victoires, 12 nuls, 22 défaites. Naples où il avait été appelé par Aurelio De Laurentiis, pour relancer le club qui était à l'époque marqué par des joueurs qui étaient un peu réfractaires. Il ira ensuite à la Fiorentina exceptionnelle, 28 mai 2021, 18 juin 2021, 0 match, 0 victoire, 0 nul, 0 défaite. Il quittera le club à peine arrivé pour des désaccords sur le transfert, avant d'aller dans un Valence qui était en train de sombrer, 22 matchs, 7 victoires, 5 nuls, 10 défaites en 6 mois à Valence. Aujourd'hui, il signe à l'Olympique de Marseille. Hein, Gattuso, dans sa carrière, c'est 305 matchs, ses équipes, c'est 405 buts marqués, 318 buts encaissés, 305 matchs, 43% de victoires, 28% de nuls et 30% de défaites.
Merci à vous. Ouais, alors,
Malik,
juste
Malik, oui, joueur, il a quand même gagné 2 fois la Ligue des Champions, et puis il a gagné la Coupe du Monde en 2006 avec l'Italie.
Et hein, c'est pas rien.
Malheureusement. Et c'était pas un tendre. Hein.
Et c'est pas un tendre, ouais, justement. Ouais. Et qui c'est qui fait venir Gattuso à l'Olympique de Marseille, si bien Pablo Longoria. Pablo Longoria, tiens, on va s'arrêter un instant
Pablo sur le président
marseillais. Je vais m'adresser tout de suite à Stéphane. Stéphane, est-ce que tu penses que, avec tout ce tumulte qu'observe aujourd'hui l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria pourra tenir jusqu'à la fin de cette saison?
Bah, on se donne rendez-vous dans un mois, on le saura dans un mois déjà, dans un premier temps, parce que ce qui fait clairement là, en tout cas moi c'est comme ça, je le vois, c'est là il sauve sa tête. Il offre aux supporters exactement l'entraîneur qu'il voulait. Ouais. Exactement l'entraîneur qu'il voulait. Bien que moi, je pense que c'est pas tellement là qu'il aurait dû être le mieux. Il a été rembarré par Textor à Lyon. Je pense qu'il aurait plus sa place aujourd'hui dans le vestiaire. Il aurait plus d'utilité dans le vestiaire de Lyon aujourd'hui que dans celui de Marseille, qui manque, je pense, pas vraiment de leader, de caractère et tout. C'est tout là. Maintenant, Longoria, ça va être très dur. Non, moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Déjà, j'ai jamais vraiment cru beaucoup à Pablo Longoria. Je pense qu'il est en grosse difficulté. Donc là, il sort un coup de chapeau. Alors, si ça marche très bien pour Gattuso, je juge pas trop. D'après ce que nous a dit Abou, on peut être quand même un petit peu inquiet pour ça. Mais je juge pas trop. Mais s'il y a des bons résultats pour Gattuso avec l'OM, il va s'en sortir. Sinon, il s'en sortira pas parce que le soufflet, il va retomber. Là, ils sont contents. On parle plus de Longoria. On parle que de la testostérone de Gattuso. Non, mais faut voir sur les réseaux sociaux. C'est hallucinant. Quoi.
Mais justement, et là, Gattuso, très bouillonnant. Marcelino complètement à l'opposé.
Endormi,
est-ce que finalement ça remet pas un peu en question la vision de Pablo Longoria?
Bon, moi je pense que ça remet pas je pense pas que ça remet en doute la vision de Pablo Longoria, mais Marcelino c'est un mauvais choix. Ça on l'a su directement d'entrée, dès qu'il est rentré en poste. Moi je savais que c'était un mauvais choix direct. Et du coup, voilà, il faut quelqu'un.
Pourquoi c'était un mauvais choix?
Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas assez de charisme, de caractère. Le gars, dès le premier match, après un 0-0, il dit je pense que le public ne se sont pas ennuyés. Voilà, là t'es à Marseille, t'es au Vélodrome, tu joues contre une équipe qui joue le maintien. Toi, tu veux jouer le podium. Tu peux pas dire à 0-0, tu peux pas dire je pense que le public ne se sont pas ennuyés avec un sourire et étant là, présent. Voilà, non, ça le fait pas. Or qu'on a vu justement les entraîneurs qui sont passés et qui ont plus ou moins réussi. Et je dis bien plus ou moins parce qu'au bout d'une saison, ils sont partis. Igor Tudor, Sampaoli, Bielsa. Voilà, et c'est des entraîneurs un peu fous. Clairement, et c'est ce qu'il faut à Marseille. Clairement, parce qu'ils ont des supporters un peu fous. C'est un club un peu fou. Ils leur font un coach un peu fou, comme Gattuso. Après, Gattuso, est-ce que c'est la solution? Oui, non, je sais pas. Au niveau du comportement, au niveau de la niaque qu'il a, qu'il amène, etc. Oui, on peut dire que c'est l'élément qu'il leur faut. Mais après, tactiquement, c'est pas un grand tacticien, c'est pas un grand coach. Gattuso, c'est pas un grand coach. Il doit essayer d'accrocher.
C'est pas ce que son ancien coéquipier, justement, à Glasgow, Lionel Charbonnier, disait. Hein. J'ai écouté justement une interview de Charbonnier qui disait ça justement.
On va voir.
Il relevait justement le côté tactique.
Charbonnier, c'est un grand coach, Lionel Charbonnier.
Non, mais il a en droit quand même de pouvoir. Mais
oui, pour répondre, pour
de toute façon, on verra.
Vu que Charbonnier n'a pas le droit de donner son avis selon Stéphane, Luis Enrique, lui, par contre, c'est un grand coach. Stéphane, et Luis Enrique, quand il parle de Gattuso, il en parle comme. Il te dit le Valence de Gattuso, c'est l'équipe la plus belle que j'ai vu jouer, c'est l'équipe que j'ai le plus aimé à cette époque-là en Liga, alors que c'était une équipe qui était dans le dur. C'est pas un grand tacticien, mais c'est pas un entraîneur défensif non plus. C'est quelqu'un qui pose un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. C'est ses habitudes de jeu. Quelqu'un qui demande à ses joueurs de presser haut, de ressortir de derrière. Et c'est un coach, en tout cas, qui défensivement encaisse pas tant de buts que ça. Ses défaites, en tout cas, c'est jamais dans sa carrière. Il a perdu par plus de 2 buts d'écart. Et même contre les gros, c'est un bilan plutôt positif. 21 victoires, si je dis pas de bêtises, 20 nuls, 20 défaites. Donc c'est pas le grand tacticien, c'est pas Guardiola, mais si c'était Guardiola, il serait pas à l'Olympique de Marseille. Donc c'est un coach, je pense, moyen plus, qui a tout à prouver encore, et qui va venir dans un club moyen plus, qui a tout à prouver. Je pense que ça va être un mariage entre
j'ai
les deux.
J'ai une petite question pour toi.
Et pour aller plus loin, en plus, c'est un coach qui signe que un an, si jamais il est dans le top 4, on discute d'une reprolongation. Et on ne l'a pas fait signer 2-3 ans, Gattuso. C'est vraiment un pompier de service. Mm-hmm. Il est là pour ramener ce club jusqu'à la fin de la saison et voir ce que ça va donner.
Ça allait d'embêler, justement. Est-ce que, selon toi, Pablo Longoria fait le bon choix? Et deuxième question, est-ce que tu penses justement que le président de l'OM tiendra jusqu'à la fin de la saison déjà?
Pour moi, Gattuso, je pense. Après, il n'y avait pas grand monde. Il n'avait pas de vrai choix. Après, Gattuso, pour moi, c'est compatible avec Marseille. Après, c'est vraiment au niveau de la Grinta. Ça correspond vraiment avec Marseille et l'ambiance et tout ce qui en suit. Donc moi, je pense qu'il faut le laisser travailler et je pense que ça peut amener à quelque chose. Et donc dans ce cas-là, moi, je pense que là, franchement, c'est intéressant. Après, Langueur, s'il va rester ou pas à Marseille, tout va dépendre des résultats, je pense, sur les prochains mois. Gattuso fait des bons résultats, je pense qu'il va rester jusqu'à la fin de saison au moins. Et là, ils feront leur bilan à la fin de la saison. Mais pour le moment, on peut pas vraiment donner de vrai avis. Ça va dépendre des résultats pour moi.
Oui, bien sûr.
Mon cher Philippe,
rien, c'est toujours les résultats.
Selon toi, justement, quel impact Gattuso peut avoir sur cet effectif marseillais?
L'effectif, je ne sais pas. Mais les supporters, c'est sûr qu'il va les rassurer, comme disait
elle. Mais elle est rassurée dans l'attitude, mais après, au niveau des résultats. L'attitude.
Après, au niveau des résultats, on ne peut pas savoir.
Malik, j'ai envie de te dire.
Effectivement. Mais il sera jugé sur ses résultats comme les autres, de toute façon.
J'ai envie de te dire, Malik, même dans l'attitude, Gattuso, c'est pas quelqu'un qui rassure les supporters. Moi,
là, tu parles pour toi ou tu parles pour
Non, je parle vraiment pour l'ensemble des supporters. Quand il a été annoncé comme entraîneur de l'OM, moi, je suis parti voir un peu les réactions sur Twitter et ce qui se disait. Après, sur Twitter, on n'a pas les supporters les plus intelligents de France, mais on a quand même des supporters qui représentent.
C'est une indication.
C'est ça, qui représente une grande majorité des supporters. Et franchement, il y en a plein, énormément, qui étaient mécontents. Moi, j'ai vu des lettres de divorce, des gens qui disaient moi et l'Olympique de Marseille, on s'arrête là. Longoria, il m'a tué. Zeroual, il aurait dû arracher la tête de Longoria, en fait.
Après, Abou, moi, j'ai envie de te dire il y a des lettres de divorce avec Marseille. Oui, mais supporters de Marseille, il y a des lettres de divorce tous les week-ends. Et ils reviennent à chaque fois.
Mais c'est brutal.
Ils font chier le maire, mais l'amour va plus loin.
Mais c'est pas ça.
Moi j'avais juste une toute petite question parce que il y a ce petit truc là qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Tudor meilleur que Gattuso ou Gattuso meilleur que Tudor?
C'est pas un peu trop tôt là pour parler?
Non, mais juste en termes de...
Bah, si on parle sur les résultats des deux coachs, Gattuso pour l'instant a plus prouvé que Tudor.
Ok.
Parce que là,
d'accord. Ouais. Non, c'est bien ce qui me semblait. Non, c'est peut-être pour ça en fait. C'est peut-être pour ça que les Marseillais voient l'arrivée de Gattuso comme un bon œil. Pour moi, le jour, la nuit, tout ce que tu veux, Igor Tudor est vraiment meilleur que Gattuso. Moi, j'ai suivi Gattuso à Valence, au Milan AC. Franchement, est-ce que les contextes
aussi sont pas différents en fonction de l'effectif qu'on a et l'ambiance en général et tout
justement, il y a un truc, il y a pas un truc qui vous choque tous ici?
Oui, Stéphane.
On est en train de dire qu'il y a une différence abyssale entre Marcelino et Gattuso, on est d'accord, abyssale sur le caractère, sur le tempérament, sur le charisme, mais aussi abyssale dans la façon de jouer. Donc on est bien tous conscients qu'on a une équipe Olympique de Marseille qui a été façonnée pour Marcelino, qui a participé au recrutement, notamment, on en a beaucoup parlé, Aubameyang à la place d'Alexis Sanchez, par exemple, qui a participé au recrutement, et tout d'un coup, après 9 matchs en tout, on annonce qu'on va remplacer Gattuso, on va remplacer Marcelino par Gattuso. Moi, c'est un truc qui me paraît très, très étonnant. D'abord, je termine sur deux choses.
Mais cela dit, Marcelino, il n'a pas été chassé par le président. Il est parti un peu de lui-même aussi.
Il est pas bête, il a senti le vent tourner. Parce qu'il aurait été chassé, peut-être pas par le président, mais par
les supporters.
Mais en tout cas, au-delà de ça, ce qui pose deux questions pour moi, et la fondamentale, pour revenir à ta première question qui est sur Longoria, sur la compétence, sur le projet pour le club de Pablo Longoria.
Oui, la vision.
Comment tu peux préparer une saison avec un coach comme Marcelino? Erreur, c'est pour moi c'était une erreur, mais bon, préparer la saison avec un coach comme Marcelino et décider au bout de 8 matchs que tu vas la continuer avec un coach comme Gattuso. Quel joueur? Alors,
mais c'est justement
vous qui avez suivi Gattuso,
c'est justement ce qui m'a amené à poser la question de la vision de Pablo Longoria. Ou alors Pablo Longoria se dit je me suis complètement trompé en choisissant Marcelino et je vais sur un profil un peu plus bouillonnant, plus apte à comment dire ça,
et il met un
à se rapprocher des Marseillais sous la pression des
supporters.
Non, mais il peut s'être trompé et puis tout simplement le reconnaître.
Il met un pansement sur une jambe de bois.
Échanger de fusil d'épaule.
Et là, toi qui as vu un peu, en tout cas moi, je n'ai aucune honte à dire que j'ai pas vu, je connais pas trop le Gattuso coach. Quels sont, d'après toi, vous qui avez étudié plus sa carrière, les joueurs qui, à l'OM, sont compatibles Gattuso? Est-ce que, par exemple, le capitaine de l'équipe, moi, sur l'image que j'en ai de l'extérieur, Valentin Rongier, est-ce que Valentin Rongier, on peut penser que c'est un joueur compatible Gattuso?
Bah, bon, s'il est compatible, moi, pense... tu, si t'es compatible, tu dors, il peut être compatible, gars, toujours. Hein.
Moi, je pense aussi. Hein. Moi, je pense que oui. Après, je pense que oui, dans le sens où Rongier, c'est un, entre guillemets, je veux bien les guillemets, c'est un bon chien de combat. Voilà, du coup, tu l'envoies là, je pense qu'il va y aller. Et c'est quelqu'un, je pense, voilà, il rassemble pas du monde autour de lui ou quoi que ce soit, mais je pense que si Gattuso lui imprègne, et c'est vraiment ça, je pense que c'est à toute l'équipe qui va imprégner la NIAC, celle de.
Ouais, c'est
de
un
jouer.
Bon soldat, tu veux dire.
Voilà, ouais, c'est un bon soldat. C'est un bon soldat, et je pense que le reste, ils vont suivre derrière, tu vois. Ils vont se la donner sur le terrain, mais le problème avec Marseille maintenant, c'est quoi? Pendant 60 minutes maximum, on a du beau jeu. Au bout de 60 minutes, ils sont tous carbo. Ils sont tous carbo. Et les 30 dernières minutes, bah, ils se font niquer. Excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça. Comme contre Panathinaikos, contre l'Ajax, etc. Vers les débuts, vous allez voir, ils vont vous sortir un joli football. Au bout des 45 minutes, dès qu'ils reviennent de la mi-temps, 15 minutes, après c'est fini, plus de souffle.
Salé, dis-moi, est-ce que selon toi, il y a une philosophie de jeu qui diffère de Gattuso à Marcelino, de Marcelino à Gattuso plus exactement, est-ce qu'il y a quelque chose qui diffère pour toi?
Après, c'est deux profils très différents, encore une fois, au niveau du caractère.
Au-delà de la personnalité.
Au-delà de la personnalité, dans le jeu. Après, moi, Gattuso, j'ai un peu essayé de suivre ses équipes. Et c'est pas un vrai grand tacticien ou autre, c'est quelqu'un qui essaie de jouer au ballon. Ça, on l'a vu avec le Milan AC et un peu avec le.
Est-ce qu'il ne s'adapte pas à son effectif en définitive? C'est aussi ça, un entraîneur intelligent.
Bah, après, moi, je dis toujours, il faut faire avec ce qu'on a. On ne peut pas inventer une équipe ou autre. Donc, il fait ce qu'il a. Mais après, l'Olympique de Marseille, je pense qu'il y a l'effectif. Mais maintenant, je pense qu'ils ont, dans le contexte où on est aujourd'hui, ils ont besoin d'être boostés. Là, il n'y a pas de tactique. Je pense que ça va être la grinta, ça va être. Vraiment jouer un peu d'abord déjà de donner des résultats un peu à l'arrache et peut-être essayer de faire quelque chose. Parce que Gattuso, faut pas oublier, dans ses anciennes équipes, il essaie de jouer au ballon. Il essaie de ressortir de derrière. Donc je pense avec Marseille, il a quand même les qualités pour jouer au ballon quand même. Mm-hmm.
Mon cher Abou, est-ce que tu penses que Gattuso pourra renforcer un secteur du jeu comme ça, de l'Olympique de Marseille?
Renforcer, je sais pas, ouais. Mais en tout cas, son rôle, au-delà du renforcement dans le secteur du jeu, je pense que ça va être de faire en sorte que ces joueurs-là, déjà, ils reprennent un peu en personnalité, mais renforcer un secteur du jeu particulièrement, je suis pas sûr. Après, il va passer sur un 4-3-3, ce qui va différer de Marcelino, donc forcément, par défaut, le milieu il sera un peu plus solidifié. Il va sûrement jouer des joueurs comme Unai, sortir un des deux, Rongier ou Verretou, donc par défaut, sachant qu'Unai, il est plus talentueux qu'un de ces deux-là. Ton milieu sera forcément un peu plus renforcé. Maintenant, offensivement, à voir comment il va gérer. S'il va
moi,
mettre...
j'aimerais que tu me dises à son
âge. Oui, Stéphane.
Excuse-moi, mais là, encore une fois, j'ai strictement rien contre Gattuso. Moi, je suis assez content qu'il vienne à Marseille. Mais je voudrais savoir, on enlève bien sûr complètement le match du PSG de début de saison de
oui,
l'OM.
La gifle, oui.
Pour les circonstances, pour plein de choses. Mais en quoi les joueurs marseillais ont besoin d'être boostés? C'est ça que. Par contre, les matchs de l'OM, je les ai tous vus. Je vois pas en quoi les joueurs ont besoin d'être boostés. Aubameyang, quand met deux au Panathinaikos, quand met deux à Amsterdam, je crois.
Amsterdam.
Oui, zéro en Ligue 1.
Et zéro en Ligue 1.
C'est ça
voilà.
Le truc du coup.
Et zéro en Ligue 1. Et zéro en Ligue 1. Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Bah,
donc,
peut-être booster
confiance.
Mais justement, booster son mental.
C'est peut-être un problème d'équipe. Le problème, quand tu regardes bien le début, si encore une fois on enlève le PSG, tout part d'un match contre Toulouse, effectivement. Affligeant au stade Vélodrome,
ouais, mais,
avec des joueurs,
mais qu'ils n'ont pas perdu néanmoins.
Ouais, qui en plus ils n'ont pas perdu. Et à ce moment-là, moi, encore une fois, j'ai vu le match. J'ai pas aimé la façon de jouer de l'équipe. J'ai trouvé qu'ils étaient pas bons et tout. Mais j'avoue franchement, il y a pas un joueur où j'ai dit, oh, putain, mais lui, il est vraiment nul. Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe? Effectivement, il y avait l'absence d'Unai qu'on pouvait reprocher beaucoup à Marcelino, qui lui a certainement aussi coûté sa tête aux yeux des supporters. Mais j'ai pas l'impression. Encore une fois, je le disais tout à l'heure. Tu me dis Lyon, oui. Mettre des claques à la Cazette, des claques à Le Penon,
on y reviendra dans quelques instants.
Et des claques
avec
à Cherki,
Olympique,
oui, ils en ont besoin. Ils en avaient besoin. L'OM, je dis pas j'ai raison. Là, franchement, je dis pas du tout j'ai raison. Je n'ai pas le sentiment que les joueurs de l'OM sont individuellement en perdition et tout.
Moi, je pense que un peu quand même. Et franchement, est-ce que qui a vu le match Panathinaikos-OM?
Non, celui-là, je l'ai pas vu, moi.
Panathinaikos-OM, le match aller.
Non, j'ai pas vu.
Une purge. Une purge. J'ai regardé le match pendant 90 minutes.
On peut partir du principe que
30% de ballons, ils ont eu.
Marcelino lui-même venait de débarquer. On peut partir de ce constat-là.
C'était une stat qui était ressortie depuis 2006, je pense, un truc comme ça à peu près. Ils n'avaient pas eu si peu de possession de balles. Et c'est contre le Panathinaikos. Vous imaginez ou pas? 30% de balles, c'était vraiment une purge. J'ai regardé le match.
Tu es en train de nous dire là que justement Gattuso devrait.
Non, mais Gattuso, ça va ouvrir le jeu.
Apporter une amélioration. Dans quel secteur de jeu au niveau de l'Olympique de Marseille?
Est-ce que tu as constaté des manques chez des joueurs qui étaient vraiment qu'on aurait besoin d'avoir?
L'efficacité chez Aubameyang. L'efficacité chez Aubameyang. Il marque, mais on voit tout ce qu'il loupe. Mais moi, je le vois. Franchement, tout ce qu'il loupe. Il loupe, mais franchement, tout ce qu'il loupe, c'est incroyable. Mais vraiment, il va rater les occasions les plus faciles et les plus difficiles. Il va réussir à te les mettre. Et c'est vraiment. Moi, je regarde les matchs de Marseille. Je les regarde jusqu'au bout. Pour pouvoir bien parler. Panathinaikos, c'était une purge, mais je me suis forcé à le regarder.
Non, mais à vous entendre, j'ai l'impression que tous les secteurs de jeu de l'Olympique de Marseille sont quasiment au top. C'est peut-être juste au niveau de la tête.
Non, du tout.
C'est ce que j'entends.
Non, du tout.
Ou alors, c'est juste au niveau de la tête que ça va pas.
Mais avec le recrutement,
cher Philippe,
moi, je pense que c'est tactique.
Avec le recrutement qu'ils ont fait, franchement, Illiman Diaye, Ismaël Assar, etc., tout ce qu'ils ont recruté, franchement, il y a le potentiel. Mais maintenant, il faut le bon coach pour qu'ils arrivent à jouer ensemble. Illiman Diaye n'a même pas réussi à s'illustrer depuis qu'il est arrivé à l'OM.
Moi, j'entends souvent le potentiel. Juste avant, le potentiel.
Juste avant, il était.
Mais comme toujours en foot, il faut qu'il y ait une adhésion entre l'entraîneur et ses joueurs, ça c'est le béaba du foot.
C'est pas non plus des champions du monde.
Non, mais enfin bon,
non plus.
Non, mais
c'est pas non plus des champions du monde. Il y en a beaucoup qui regardent où ils étaient.
Mais moi j'ai envie de faire un focus quand même sur le gardien de l'Olympique de Marseille, Paul Lopez. J'ai pas l'impression que c'est le gardien que mérite d'avoir l'Olympique de Marseille.
Mais peut-être à l'image de
son équipe. D'accord, si tu es d'accord avec moi, qu'est-ce que tu penses justement de Paul Lopez? On va partir justement du gardien de but jusqu'aux attaquants rapidement.
C'est pareil, un gardien.
C'est un gardien moyen, Paul Lopez. C'est sûr que c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas un gardien qui mérite de jouer à l'Olympique de Marseille. C'est plus.
Mais j'ai l'impression que personne dit rien.
C'est
ça passe,
3,
ça glisse comme ça. Mais j'ai pas l'impression que.
Ah moi je me
sens un gardien d'un niveau. De l'Olympique de Marseille, en tout cas si tant est que l'Olympique de Marseille ait des ambitions. En tout cas.
Non, moi Malik, je te le dis, depuis qu'ils ont laissé Mandanda pour Paul Lopez, j'ai dit que Marseille, ils ont un sérieux problème.
Ils ont foutu à la porte.
Je le disais, ils ont foutu à la porte Mandanda pour. Tu dors? C'est Sampaoli.
Non, mais le président.
Longoria?
Ouais.
De toute façon, c'est le problème de.
Sanchez, c'est Longoria. Mandanda, c'est Longoria.
C'est la tête qui est. Payet, qui est pas
là. Alors, on peut pas trop le blâmer, tu vois, c'est Longoria.
Moi, je pense pas qu'on peut tout mettre sur Longoria quand même. Le coach, il fait des choix aussi. Mandanda, ça fait un moment qu'il est là. Moi, je pense qu'il fallait penser à sa succession, mais pas de cette manière.
Je pense qu'on peut laisser Mandanda, mais pour prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Laisser Mandanda, finalement, pour prendre.
T'as un nom en tête, Malik? T'as un nom en tête?
Non, ça me vient pas comme ça, forcément. Mais je pense qu'il y a forcément
beaucoup mieux. Je connais pas de gardiens beaucoup mieux qui vont venir à Marseille.
Non,
à
Sirigu, moi j'en ai un.
Sirigu. Je pense que soit
j'en ai un.
Si on travaille bien, on trouve. Hein.
Non, j'en ai un. Moi, je vais vous le dire.
Oui.
Au moment où il vire Mandanda, Brice Samba.
Oui, Samba.
Il aurait jamais voulu quitter Lens.
Après, c'est autre chose.
Il était pas à Lens.
Après, c'est autre chose.
Il n'était pas à Lens.
Revenir dans
à Nottingham Forest.
Revenir dans le contexte marseillais.
Il n'était pas à Lens quand Mandanda quitte.
Rien ne nous dit qu'il fait la même saison.
Il a un problème, c'est ça, Malik.
Les amis, on va progresser. Juste une dernière question sur ce chapitre Olympique de Marseille. Alors, je vous ai posé la question. Grosse prise ou coup de poker, Gattuso, Philippe, selon toi?
Moi, je pense que c'est un coup de poker.
Et toi, Stéphane?
Moi, je pense surtout que c'est pour se sauver la tête,
ouais,
se sauver la vie tout de suite.
Donc, coup de poker.
Un peu coup de poker. Ouais.
Coup de poker.
Et toi?
Coup de poker.
Elhadj,
c'était quoi l'autre?
Coup de poker ou plutôt
gros une grosse prise.
Une grosse prise.
Un peu des deux, moi, je pense.
Un peu des deux?
Ouais.
Alors, dans quelques instants, on va enchaîner avec les coupes européennes, des coupes dans lesquelles se sont bien illustrés les clubs français. Zéro défaite, une fois n'est pas coutume, pour qu'on s'arrête quelques minutes là-dessus. Ouais. On va transiter avec le concours de notre ami Jason, on va transiter par juste un peu de pub et on revient juste après, bougez pas.
David roule tranquillement en centre-ville. Il reçoit un message et ne résiste pas à l'envie d'y répondre. Comme tous les jours, Julie rentre du collège. Elle traverse la rue et sera tuée sur le coup. Sa mère n'osera plus toucher à sa chambre. Son père se cachera pour pleurer. Sa glace se figera dans le silence. Et son professeur donnera le cours le plus dur de sa vie. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ? Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables.
Au sommaire ce soir dans Au bout du foot, l'Olympique de Marseille en plein tumulte. Est-ce que Pablo Longoria tiendra bon jusqu'à la fin de la saison ? La question est posée. Après un départ fracassant de Marcelino, la gifle reçue par le Paris Saint-Germain, voilà que Gattuso débarque à l'OM. Grosse prise ou coup de poker ? Nous posons la question au chroniqueur. Jonathan Clauss au sommet de sa forme, mérite-t-il un appel de Didier Deschamps ? Coupes européennes, les clubs français restent invincibles en Coupe d'Europe lors de la première journée. Est-ce un signe prometteur pour cette saison ? Nos experts vous éclairent de leur savoir. L'Olympique lyonnais en perdition. L'Olympique lyonnais s'enfonce dans les abysses après sa défaite contre Brest. La Ligue 2 menace-t-elle les Gones ? La question qui fait trembler les supporters est posée. Après 6 journées de championnat de Ligue 1, osons-nous prédire le top 5 final ? Nos chroniqueurs se lancent dans l'exercice périlleux. Rendez-vous dans la chronique. Quel choix ? Pour quel résultat ? Cristiano Ronaldo brille en Arabie Saoudite. L'étoile CR7 continue de scintiller avec un récent doublé. Faut-il prendre au sérieux le championnat saoudien dans la course au Ballon d'Or ? La question qui agite le monde du foot est posée ce soir. Commentaires, analyses, décryptages, pronostics audacieux. Installez-vous et soyez prêts à être immergés dans l'univers fascinant du ballon rond et plongez avec nous dans Au bout du foot. Première saison, deuxième épisode.
Notre ami Salé, ainsi qu'El Hadj, les amis, Coupes européennes, on va faire rapidement là-dessus. Oui. Coupes européennes, zéro défaite pour les clubs engagés, Conférence League, Europa League. On a Toulouse, on a Marseille, Lille et Rennes qui se sont donc mis comme ça sur le terrain vert, zéro défaite. Est-ce qu'il y a des explications particulières selon vous ?
Non, il y a des soirées comme ça. Ça fait du bien, il y a des soirées comme ça, mais il n'y aura pas des soirées où il y aura zéro défaite. Hein. Tu peux te rassurer. Non, mais c'est vrai.
En fait, toi, tu te dis qu'en fait,
c'est
un heureux hasard, quoi, c'est ça ?
Heureux hasard, je ne sais pas si c'est le hasard, mais il n'y aura pas zéro défaite à chaque journée, c'est sûr. Certain.
Mon cher
mais
Salé,
bon, ça fait du bien. Ça fait du bien pour l'indice UEFA et ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Il y a quand même des journées où nos clubs français, partent sans la moindre défaite.
Mon cher Salé, est-ce qu'il y a des explications ou une explication particulière par rapport à ça ?
Non, c'est la première journée. C'est la première journée. Maintenant, les équipes, elles ont fait le travail. On espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Mais bon, maintenant, ça s'est bien passé. Pour l'Olympique de Marseille, surtout qu'ils font, je trouve, un bon match quand même. Ils reviennent. Et à Lens aussi, à souligner.
À Lens, oui.
Qui font un très, très gros match. C'était intense par rapport à ce qu'ils se proposaient en Ligue 1. Ça n'avait rien à voir. On sent que le fait de passer sur la Ligue des Champions, ça leur a fait beaucoup de bien. Et franchement, après les autres résultats, j'ai Toulouse qui est aussi, c'était pas mal. Franchement, non, c'est intéressant. C'est bien, c'est encourageant.
Mon cher Stéphane Desenclos, Paris, Marseille, Lens, Toulouse, Rennes, Lille.
C'est
quand même beaucoup d'équipes engagées pour zéro défaite.
Ouais, et la grosse surprise quand même.
On n'a pas l'habitude.
La grosse, grosse surprise de ces 6 matchs, c'est Toulouse, c'est Lens.
Cela dit, sur le papier, oui, mais quand on regarde Séville jouer aujourd'hui, c'est faible quand même. Ça n'enlève pas le mérite.
On n'est pas gagnant il y a 15 jours, Malik.
Et puis surtout, je te donne rendez-vous.
Parce qu'on n'avait pas regardé Séville aussi.
Mais je te donne rendez-vous dans encore 2-3 semaines et avec le classement de Séville. Séville, je crois que depuis Lens, ils ont gagné un match sur peut-être même deux, je ne sais pas combien ils ont joué. En tout cas, ils sont en train de remonter. Ils avaient gagné leur premier match de la saison juste avant de recevoir Lens. Et je pense que depuis, donc avant la réception de Lens, ils sont bien. Moi, j'ai vu le match. Je trouve qu'ils ont une équipe sérieuse. Mais quand je dis grosse surprise, parce qu'en plus, faut pas se le cacher. Je pense que c'est une déception, je pense, pour Lens de pas avoir ramené les trois points. Je pense que Lens avait vraiment le moyen de prendre les trois points à Séville. Non, moi, c'est un match. Franchement, j'étais ici même la semaine d'avant. On les avait enterrés. Je les enterre toujours. Je pense qu'ils seront toujours pas dans les trois premiers. Ils seront pas dans les trois premiers, mais en tout cas, je trouve.
Continue de les enterrer, ça leur fait du bien, visiblement.
Oui. Exactement, hein, exactement.
Mon cher Eladj, est-ce que tu as une explication particulière face à ce beau parcours justement des clubs français?
Un coup de chance.
Pour toi, c'est un coup de chance?
Ah, clairement. Ah, c'est un coup de chance. D'habitude, la honte de la France, c'est Marseille. Là, ils ont réussi à passer outre parce qu'il y a une grosse crise à l'Ajax. Et même l'Ajax.
Mais une crise à Marseille aussi, cela dit. Hein.
À l'Ajax,
non,
je pense que
tout va bien.
À l'Ajax, c'est un peu. Non, mais à l'Ajax, c'est un peu plus profond. Ça n'a rien à voir. À l'Ajax, c'est un peu plus profond. C'est pas pareil du tout. À l'Ajax, c'est un peu plus profond.
Il n'y a pas de crise sportive à Marseille. Il n'y a pas de crise sportive.
Voilà. Et l'Ajax, mais c'est vraiment.
Parce que le fait d'aller menacer un président, ça n'a aucun impact sur les joueurs.
C'est pas une. Non, mais c'est pas une.
Abou, j'ai envie de dire. Crois-moi,
non, les amis, on va pas sortir du débat là.
On va pas sortir du débat. C'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas de crise sportive.
On va pas sortir du débat. La question, c'était de savoir s'il y avait des explications particulières face au bon comportement des différents clubs français engagés en Coupes européennes.
Ouais, moi, je pense que voilà, dans l'ensemble, on a eu des équipes pas très difficiles aussi à jouer. Séville qui sont pas trop dedans aussi. Moi, ça m'a un peu lance. Ils sont obligés de se relancer quelque part. Ils sont relancés en Champions League. Maintenant, faut voir ce qu'ils vont faire à domicile contre Séville, parce que je pense que Séville vont quand même gagner au match retour au stade
Bollaert.
Du coup, et moi, je pense que match retour, bon, Gattuso, s'il réussit à faire un peu de magie et que l'Ajax réussisse à se mettre un peu dans les clous, pour moi, Marseille, ça sort pas de la poule.
C'est vrai qu'il y a un Gilles, l'AIFA.
Mon cher Abou, j'ai l'impression que nous, Français, club français, dès qu'on gagne, on a tendance à faire la fine bouche. J'entends le discours des Lades. J'ai l'impression que, bon, il dit que c'est un peu un coup de chance. On aurait perdu, on aurait dit.
Non, on n'a pas défaite.
On
n'a pas gagné tous les matchs.
Oui, on n'a pas gagné tous les matchs, mais zéro défaite en tout cas. On aurait dit oui, mais c'est normal. Mais là, j'ai l'impression que là, malgré tout, il fait quand même la fine bouche et c'est très français ça. Non. Pourquoi une fois pour toutes, on ne s'enjaille pas, si j'ose dire, justement, de ces bons résultats là?
Malik, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Le français est un internel satisfait. C'est celui qui manifeste le plus dans ce monde.
Insatisfait ou satisfait?
Insatisfait.
Non, il est content.
Le français n'est jamais content, quoi qu'il arrive. Moi, il y a 6 matchs. Moi, ça m'a fait plaisir de voir qu'aucun des clubs français a perdu. J'étais content. Je trouve pas que ce soit de la chance. Je trouve qu'on a vu des belles équipes. À Marseille, il y a eu du caractère. À Lens, il y a une belle équipe avec du caractère qui répond au score. Rennes, c'est une équipe solide. Genesio, c'est réfléchi. Paris qui bat Dortmund, on est content, c'est solide. Toulouse qui fait le nul. Mais en fait, je sais pas, moi, quand je vois.
Bah merci à vous, t'apportes de l'eau à mon
Lille qui bat Ljubljana, on était inquiet. Lille qui a failli rater sa qualification en Ligue Europa Conférence, on était inquiet pour eux. Ça va jusqu'au tir au but, on était inquiet pour eux. Là, il y a 3 victoires, 3 nuls, savourons, profitons. Ce sera peut-être pas ça pour la deuxième journée, mais toujours faire la fine bouche, c'est très français. Le français n'est jamais content.
J'ai pas entendu de bravo, j'ai été choqué. Ni Salé, ni Ella, ni Stéphane. Encore peut-être avec Philippe. Trois,
faut les féliciter.
J'ai pas vraiment entendu de bravo, j'ai l'impression que.
Faut les féliciter.
Vous faites la fine bouche à tout va, les amis.
Moi, j'ai parlé d'une très belle surprise de Lens.
Ouais, mais il y a toujours un petit mais en dessous.
C'est la chance. Maintenant, c'est vrai que attendons peut-être pour voir un peu le niveau des clubs français en Coupe d'Europe, déjà la prochaine journée.
Mais déjà, ils ont commencé à les encourager.
Newcastle, PSG et surtout Lens, Arsenal. J'ai peur que ça sera un peu plus compliqué. Ouais.
Non, mais Saint-Gilloise, Haïfa, c'est quand même pas des gros morceaux. Donc, c'était pas non plus véritablement surprenant qu'on ne soit pas battu par ces équipes. Quand même, Rennes qui bat Haïfa, Lens qui va faire. Toulouse qui va faire un nul à Saint-Gilloise. Quand même.
Saint-Gilloise, c'est pas mal quand même.
Ouais. Saint-Gilloise, c'est pas mal. Bon, après, surtout que ces équipes-là, d'habitude, on les voit jouer. On a vu des équipes moins pires gagner contre des équipes françaises. Hein.
Bien sûr.
Nice qui sont sortis contre une équipe que je ne connais même plus son nom.
Bâle,
oui, c'est vrai. Bâle.
Du coup, non. Ouais.
Les amis, à présent, je vais baisser un peu la cadence. Parce que le sujet qui arrive me fait pleurer déjà. L'Olympique Lyonnais. Allez. L'Olympique Lyonnais est au bord du précipice, les amis.
Allez.
Qu'est-ce qui se passe à Lyon? La Ligue 2 menace l'Olympique Lyonnais.
Eh ben,
mon cher Abou, aujourd'hui, la Ligue 1 est composée de combien de clubs?
18 clubs.
J'ai l'impression que l'Olympique Lyonnais a oublié. L'Olympique Lyonnais pense, croit que nous sommes toujours à 20 clubs.
Moi, c'est ça qui m'inquiète, Malik, dans le début de saison de l'Olympique Lyonnais.
Si demain, Emmanuel Macron, avec une allocution à la télé, nous dit qu'il y a un Covid et qu'on doit tous être parqués et qu'on nous ressort 2 mois, 3 mois, 4 mois après, si le championnat devait s'arrêter là, Lyon serait tout de suite en Ligue 2, comme ce fut le cas il y a quelques années déjà par rapport à la Ligue des Champions. Et je m'en souviens que Jean-Michel Aulas avait pesté par rapport à la qualification de Marseille, si mes souvenirs sont bons, qui a dû voir le championnat s'arrêter beaucoup plus tôt
il a pesté
que ce qui était prévu.
Ouais, il a plus
pesté. La Ligue 2 menace-t-elle l'Olympique Lyonnais, cher Aboubakar?
Après, t'as pris une voix super grave, il n'y a pas mort d'homme non plus, hein, c'est la Ligue 2, pas le cimetière Père Lachaise quand même.
Ouais,
mais
c'est
la Ligue 2.
Pour Lyon quand même.
Pour certains, oui, hein, parce que Lyon, c'est quand même, ça emploie beaucoup de monde. Hein,
on a connu d'autres grands clubs de ça, mais moi, ce qui m'inquiète dans l'Olympique Lyonnais, sans même que le monsieur le président de la République fasse faire un confinement, moi, ce qui m'inquiète dans l'Olympique Lyonnais, c'est comme tu le dis, il y a 18 clubs. En fait, 18 clubs, t'as moins de marge de manœuvre que quand t'en as 20. Donc forcément, par défaut, tu te dois d'être plus efficace. Et j'ai l'impression que moi, à Lyon, le problème, il est plus profond qu'une histoire de coach, qu'une histoire de joueur. J'ai l'impression que c'est vraiment tout l'organigramme où il y a un souci. Même là, encore, il y a une affaire encore qui est sortie hier où on parle de Jean-Michel Aulas qui aurait pris du budget de l'Olympique Lyonnais 12 000 euros, c'est rien à l'échelle d'un club comme Lyon, mais c'est quand même 12 000 euros pour payer un influenceur belge qui fait les éloges du président et de Lyon. Enfin, c'est tous les jours des petites crises comme ça. J'ai l'impression que là, c'est un peu cet ex qui a du mal à lâcher son ex et qui veut toujours être là, mais sans vraiment être là, un peu l'ex toxique. Donc moi, c'est tout ça qui m'inquiète pour l'Olympique Lyonnais. Et moi, je te dis pas qu'ils vont descendre, mais qu'il fasse attention quand même à ce qui se passe là-bas. Et Fabio Grosso, je suis pas sûr que ce soit le choix le plus intelligent à ce moment-là de la saison.
Tu aurais pensé à qui, toi?
Gennaro Gattuso, tu sais, le coach qui crie sur les gens.
Gattuso ne peut pas être partout, hein, définitivement, mon cher Philippe.
Mais c'est avec lui qu'on avait un accord.
Ben écoute, moi, je veux dire, malheureusement, ça ne m'étonne pas. Les gens qui ont repris ce club, ils ne connaissent rien au football. Et ils n'en ont rien à faire du football. Voilà, comme malheureusement, la plupart des clubs, comme Sochaux, comme...
Ouais, mais cela dit, voilà. C'est pas eux qui sont sur le terrain, mon cher Philippe.
Ce sont des businessmen.
Ouais, mais qui est sur le terrain au-delà de ça? Une fois qu'on a dit ça,
eh ben oui,
c'est pas les repreneurs qui courent sur le terrain.
Un entraîneur et qu'on
Laurent Blanc, c'est un entraîneur référencé.
Oui, alors attends, ben justement, Laurent Blanc, le problème, c'est que s'il avait été avec des vrais gens de football, peut-être qu'il aurait continué, peut-être qu'il aurait été écouté, peut-être qu'il aurait été suivi. C'est l'éternel problème. Il ne sentait pas une cohésion autour de lui. Pareil pour les joueurs. Donc, malheureusement, ce qui se passe à Lyon, bah, c'est ce qui se passe dans beaucoup de clubs, peut-être même l'Olympique de Marseille avec le président, l'actionnaire américain. C'est le problème actuel. Voilà. Ce ne sont pas des amoureux du football.
Mon cher Eladi, est-ce que tu penses
Ce ne sont pas des connaisseurs.
Est-ce que tu penses que Lyon pourrait se retrouver en Ligue 2, franchement?
Oui.
Honnêtement ?
Oui.
Non, j'ai du mal. En tout cas, j'ai du mal à y croire. Franchement, honnêtement, j'ai du mal à y croire parce que ça reste quand même une équipe avec des qualités. Et je pense que de là à sortir de la zone rouge, je pense qu'ils n'auront pas trop de mal à sortir de la zone rouge. Maintenant, je ne dis pas qu'ils vont finir dans la première partie du tableau.
Mais moi,
en tout cas, je serais surpris qu'ils soient
relégués. Il y a des clubs qui sont cassés pour moins que ça, tiens. Bordeaux, Saint-Etienne.
Enfin, oui, mais
c'est pas des. C'est
oui,
pas
oui,
des,
d'accord, mais Saint-Etienne. Mais comme
Bordeaux, regarde, la mauvaise gestion de Bordeaux.
D'accord, oui, oui, voilà, je vois la mauvaise gestion de Bordeaux.
Sochaux,
mais ils avaient qui comme joueur? La question, elle est là aussi.
Ouais,
là, mais... tu regardes Lyon, c'est différent. Non, faut se dire les choses telles
mais
qu'elles
même,
sont.
Mais même.
C'est différent. Ils ont un effectif meilleur. Lyon ont un effectif meilleur. Moi, je pense qu'il faut juste.
C'est pas si évident que ça.
Moi, je trouve qu'on surcote un peu cet effectif.
Moi, je pense. Non. Franchement, on est en Ligue 1. Faut qu'on se dise la vérité. On prend sur le papier, ils ne font pas partie des 2-3 derniers de Ligue 1. Vous n'allez pas me dire que si on prend l'effectif de Lyon, ils font partie sur le papier, ils font partie des 2-3 derniers.
Il va Le Havre. Le Havre, oui, voilà.
Il vaut mieux que le Havre.
Non, mais sur le papier.
Faut se dire la vérité. Voilà. Non, il vaut même mieux que le Havre sur le papier. Ouais. Faut se dire la vérité. Ouais. Il vaut mieux que le Havre sur le papier.
Ouais, mais Lyon.
Et au classement. Ouais. Moi, en tout cas, personnellement, ça ne m'inquiète pas. Je pense qu'ils vont se maintenir.
Mon cher Salé, est-ce que tu penses que Lyon mérite sa place actuelle?
Bah, en vue du contexte du club, pour le moment, on va dire que c'est un peu mérité. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de directeur sportif. Laurent Blanc, depuis l'été dernier, depuis la préparation, il a alerté sur le fait qu'on le sentait dans les interviews, dans les questions. On lui a demandé, dès les préparations, c'était catastrophique les matchs.
Mais
on lui a demandé C'est, on lui a demandé qu'est-ce qu'il fallait changer pour l'Olympique Lyonnais. Il a répondu qu'il fallait changer d'entraîneur. Et c'était lui l'entraîneur. Donc à ce moment-là, moi j'ai senti qu'il y avait quelque chose en interne et ça sent pas bon. Et dire, aujourd'hui, grosso, il arrive, il n'y a pas de directeur sportif. Dans le vestiaire, apparemment, c'est coupé en deux. Les anciens, ils n'intègrent pas les nouveaux. Enfin, c'est un peu le bordel en interne. Dans les vestiaires, même en haut, au niveau de l'organigramme, comme il a dit Abou, il y a plein de changements à faire. Alors franchement, Lyon, comment
c'est pas des gens de football. Le problème, c'est pas des gens de football.
C'est un peu similaire à Marseille, où t'as Textor et Macourt, c'est des gens qui ne s'occupent pas vraiment du club.
Ils pour le business.
Ils mettent pas les bonnes personnes. Et je pense qu'il n'y a pas les bonnes personnes.
Je pense qu'on n'a pas assez la notion de, entre guillemets, de ce qui se passe dans le vestiaire de l'Olympique Lyonnais. Et c'est pour ça que moi aussi, même si je partage l'avis de Eja sur le papier pour Lyon, par rapport à la coupe, par rapport aux joueurs, mais moi aussi, je pense que Lyon peut aller en Ligue 2. Ouais. Parce qu'actuellement, ou alors qu'il va falloir. Déjà, attendons de voir ce qui va se passer au mois de janvier. La Cazette, par exemple, partirait en Arabie Saoudite, que moi, personnellement, je ne serais pas surpris. Parce que c'est quand même un mec qui a aujourd'hui très gros sur la patate d'avoir refusé des offres, d'être revenu, d'avoir refusé des offres. Je peux vous en donner des dizaines. Et qui aujourd'hui est bloqué à Lyon et dit carrément, je préfère pas dire de dinguerie après une interview, donc je ne parle pas, parce qu'on sent bien qu'il pense, je suis entouré par des nazes. Plus ceux qui disent... Je comprends pas pourquoi Tolisso, il est titulaire à chaque match alors qu'il met pas un pied devant l'autre depuis le début de la saison. Plus ceux qui disent que X devrait pas jouer et tout. Mais je sais pas si vous avez regardé les matchs de Lyon. Mais c'est quand même hallucinant.
Assez soporifique.
Oui. C'est hallucinant.
Avec Grosso, je pense pas que ça va aller mieux.
Ouais,
Grosso
moi, qui arrive voilà. tout de suite. Moi, je connais pas trop.
Sur le banc, sur ça, etc. Ouais.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction, je disais, je pense qu'ils se sont gourés d'Olympique, parce que peut-être là, oui, qu'un entraîneur musclé qui remet les gens à leur place et tout ça, qui a besoin de rebooster des joueurs et tout, c'est plus à Lyon qu'à Marseille. Marseille, tu as besoin de tactique, de jeu et tout, et de pas être... Mais bon, ça va peut-être marcher quand même à Marseille. Mais en tout cas, bon, est-ce que Textor n'a pas fait une nouvelle grosse erreur en laissant attendre dans les toilettes du café Gattuso tranquillement pour prendre finalement un autre entraîneur à la place? J'en sais rien.
Le problème, c'est que dans l'organigramme même, ils sont divisés en deux. Pourquoi Gattuso ne vient pas à l'Olympique Lyonnais? C'est parce que à l'Olympique Lyonnais, tu as des gens qui voulaient pas que Jorge Mendes rentre dans l'Olympique de Lyonnais et ait des intérêts à l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça que Gattuso, alors qu'on a un accord tout ficelé avec lui, au dernier moment, on lui dit finalement ça va pas le faire, on va aller sur Grosso. Donc moi, je pense l'organigramme même du club va amener ce club vers la chute. Tu peux avoir les joueurs les plus talentueux du monde, s'il y a un moment donné à tous les étages, parce que là aujourd'hui les joueurs ils ont personne vers qui se tourner,
mais il n'y a personne à qui parler. Qui est talentueux à Lyon, mais à part Cherki et talentueux avec des défauts,
et même Cherki
c'est ce que j'allais dire, avec des défauts,
Cacré.
On le déteste et tout, mais je suis pas sûr que Cacré
et je te dis même pas qu'ils ont, je te dis tu peux avoir les plus talentueux et rien faire.
On dit tout le temps que ça qui va être super bon, qu'il allait en équipe de France, il fait rien.
Moi je pense qu'il s'est perdu Cacré, il aurait dû partir.
Mais des joueurs comme à Lyon, il n'y a personne à qui parler.
Oussem Aouar, il aurait dû partir il y a un moment.
Les amis, on va faire plus direct. Est-ce que selon vous, cet effectif peut permettre à Lyon de se maintenir, tout simplement? Oui. Mon cher Philippe.
Je suis d'accord quand même que cet effectif, il vaut quand même mieux que la 16e ou 17e place. Hein. Mais bon, voilà, maintenant, il ne va pas jouer le titre de champion.
Non, mais ça, c'est sur le papier.
Oui, ça, c'est
mais
le papier.
Non, mais factuellement, est-ce que cet effectif... Franchement, il faut les voir jouer.
Oui, je sais. Moi, je veux bien, mais je te dis... Ouais,
ils ont joué face à Brest, je les ai vus.
Mais moi, je ne suis pas optimiste pour Lyon. Ça va très mal se finir. Comme Bordeaux, comme Saint-Étienne, ça va très mal se finir.
Stéphane, tu penses la même chose aussi? Est-ce que cet effectif lyonnais peut permettre au Gaune de se maintenir?
Non. Sur le papier, pour prendre ce que tu as dit, oui. Sur les vignettes Panini, oui. Mais sur le terrain et dans l'état d'esprit qu'ils ont depuis le début, non.
Ils ne s'en sortiront pas.
Cherki, j'ai beaucoup de mal. Après, comme tu l'as dit toi-même, il y a des hauts, il y a des bas, on en pense du bien, du mal et tout ça. J'ai beaucoup de mal à voir un bon Ryan Cherki cette saison à Lyon. Je pense que c'est un joueur qui peut, contrairement, parce que les gens s'acharnent un peu sur lui et tout, il fait des jonglages, des machins, des petits pour tout. Moi, je pense que c'est un joueur qui a de l'avenir, qui peut être un très bon joueur, mais en tout cas pas dans ce contexte-là à Lyon. Quoi. Voilà, donc je pense que non.
Mais vous avez parlé des repreneurs, vous avez parlé des joueurs, vous avez parlé même du directeur sportif et tout ça. j'ai l'impression que en fait c'est toute la colonne vertébrale des Lyonnais qui est complètement endommagée. Ça sent la Ligue 2, les amis, soyons clairs.
Mais bien sûr.
Et vous savez,
Jean-Michel Aulas, il a bien tenu le club jusqu'à ses débuts.
On pouvait lui dire ce qu'on voulait, mais
on peut le détester par ses paroles, par tout ce qu'on veut. Pour moi, ça reste l'un des meilleurs présidents de l'histoire française, voire peut-être du monde. Et le problème, c'est quoi? C'est que même Aulas, quand il était là sur la fin, on sentait le déclin. En fait, les non-qualifications à répétition.
Il
n'avait
plus les pleins pouvoirs, c'est ça aussi le problème.
C'est ça. Et, les non-qualifications à répétition en Ligue des Champions, aussi, je pense que ça a joué. Parce que quand tu joues pas en Ligue des Champions, t'attires moins de grands joueurs, tu fais rentrer moins d'argent. Et le club aussi, il partait un peu en cacahuète. Et la revente aussi. Elle a tout cassé. Et là, c'est.
Oui, pour rebondir sur ce qu'il dit, c'est peut-être l'un des meilleurs. Moi, je pense même pas que c'est l'un des meilleurs. Je pense que c'est le meilleur président de l'histoire du foot français. Mais ça n'empêche pas que c'est lui, il est en partie responsable. Même si c'est à minima, il est en partie responsable de la situation de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Parce que c'est lui qui vend le club à John Textor, personne ne l'a forcé. On lui a pas mis de pistolet sur la tempe. C'est lui qui, cet été. Met une amende qui enfin c'est lui qui en cet été porte plainte contre son propre club et fait en sorte de geler les comptes du club. Donc et à un moment donné Jean-Michel Aulas, j'ai l'impression c'est un peu le gamin qui a construit sa cabane et qui par frustration à la fin détruit la cabane qu'il a fait avec ses caps là et il regarde le résultat. Et comme Philippe, moi je suis très inquiet pour l'Olympique Lyonnais parce que si ça s'arrêtait qu'à l'effectif, peut-être qu'il se maintiendra en Ligue 1, mais malheureusement le foot c'est pas qu'une histoire d'effectif, c'est beaucoup plus profond que ça. Et j'ai bien peur que ça aille en Ligue 2.
C'est un état d'esprit aussi. Y a les talents, pour rebondir, il y en a. Il y a la Cazette l'année dernière qui porte à l'époque.
Mais c'est plus sur la fin tout ça. Tolisso,
Tolisso, c'est sur le déclin.
Anthony Lopez.
C'est plus sur la fin.
C'est sur le déclin.
Même Lovren derrière.
Les talentueux lyonnais sont quasiment vers la fin.
Ouais, mais je pense que c'est plus des. C'est un manque d'envie. Moi, je pense que c'est un manque d'envie.
C'est un manque d'envie.
Le vestiaire, il est cassé pour moi.
Oui, elle a
dit. Et c'est aussi parce qu'ils ont vendu leurs meilleurs joueurs. Malo Gusto,
Lukeba.
Mais là tu peux pas dire ça. Il y a deux secondes tu disais Kakré il aurait dû partir. Et là,
j'ai dit que Kakré aurait dû partir il y a un moment parce qu'il s'est perdu comme Oussem Aouar aurait dû partir depuis qu'il jouait la Champions League contre Manchester City.
Ouais mais Fekir il est parti. Fekir il est parti, on l'a oublié.
Il est au Betis. La saison dernière il fait une saison moyenne. C'est pas catastrophique. Betis ils font partie des 6 premiers en Liga quand même. Regarde Lyon aujourd'hui, Fekir
quand il va au Betis Séville, il pense un jour ou l'autre intégrer le Barça, voire le Real. Hein.
Oui, bien sûr.
Comme beaucoup de joueurs espèrent
arriver là-bas.
Ouais, mais Fekir il se fait les croiser quand même au Betis. Hein. Fekir doit partir. Et pour rebondir sur ce qu'il dit, et là, Jay, là où il a raison, Fekir il doit partir quand il doit partir à Liverpool. C'est à ce moment-là que Fekir il doit partir. Après, derrière, il se fait les croiser. Forcément, derrière, t'as rien d'autre que le Betis. Et au Betis, il se refait les croiser.
Qui nous dit que Fekir s'impose quand il arrive à Liverpool, rien ne nous le dit.
Personne, mais c'est à ce moment-là qu'il aurait dû partir.
Il n'y a aucune certitude.
C'était à son prime.
Et c'est à ce moment-là qu'il
aurait dû. Moi, je pense qu'il n'y a pas de joueur. Il n'y a pas de joueur, quitte à être.
Sur
les doigts d'une main, tu comptes les bons joueurs à Lyon.
Moi, je pense que vous savez comment ça va se passer.
Top 5 de Ligue 1.
Moi, je pense que vous savez comment ça va se passer. Grosso, il va jouer jusqu'à la 20e journée maximum. Il va être limogé parce que ce qu'il va faire, c'est de la merde. Clairement. Et ensuite, il y a un nouveau coach qui va arriver pour une dizaine, quinzaine de matchs. Il va réussir à les sauver. C'est comme ça que je le vois, le programme de Lyon.
Le mercato de janvier va peut-être les sauver. J'avais une petite précision quand même sur Lyon. Vous savez qu'aujourd'hui, on réclame 300 millions d'euros de dette à l'Olympique Lyonnais, et on dit, la rumeur dit que John Textor veut vendre le Groupama Stadium, ou en tout cas une partie du stade, pour récupérer cet argent. Donc là, j'en reviens à ce que disait tout à l'heure effectivement Philippe, c'est-à-dire c'est des businessmen, les mecs qui pensent business.
Je pense que Philippe a bien résumé la situation.
Ils pensent argent, et ils pensent pas autre chose. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire ça aussi, les spécialistes et tout, vont dire de toute façon...
Colonie Capital.
On ne gagne pas d'argent dans le football, quoi. On ne gagne pas d'argent.
Mais
donc,
pourquoi ils viennent
C'est pour d'autres choses, c'est des intérêts à côté. Comme Macour, quand il vient à l'OM, c'est pour acheter des hôtels
et
sur
le Paris Saint-Germain.
Ils sont venus parler de toi.
Le Qatar, je crois que QSI sont venus au PSG pour gagner de l'argent.
L'Arabie Saoudite, quand il va à Newcastle, c'est pour faire du soft power. là-bas. Et pour aller plus loin, John Textor, ça m'étonnerait pas qu'il vende le Groupama Stadium. Il a commencé déjà en arrivant au club en vendant les féminines. Les féminines qui. Dès qu'il est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est vendre les féminines.
Le théâtre aussi.
Non, mais là, franchement.
Le mec, il est venu, il vend tout.
J'avais besoin de 50 millions.
J'avais 10% d'optimisme par rapport au maintien du Lyon en Ligue 1, mais à vous entendre, j'ai l'impression que je sortirais de ce studio.
Vendre le stade, ça veut pas dire non plus vendre le club.
Non, mais on n'en est pas loin. Et quand on a toutes ces idées-là, en général, on n'est pas concentré sur l'équipe première en l'occurrence. Et après, il y a tout qui dégage.
Nous, on avait mis.
Justement, restons-y, Lyon, parlons-en avec cette fois-ci l'entraîneur Fabio Grosso. J'ai envie de parler de lui. Parce que quand j'ai vu justement Fabio Grosso à l'Olympique Lyonnais, j'ai eu l'impression de voir bonnet blanc, blanc bonnet avec Laurent Blanc, sans jeu de mots. J'ai l'impression que c'est le même profil d'entraîneur. Donc, j'ai pas compris où était le changement. Exactement. Et au niveau de la personnalité, et même parfois même un peu, même au niveau du physique aussi, parfois.
Mais j'ai envie de te dire.
Et même dans la façon de jouer, je me dis, mais attends, quel changement il y a finalement ? Est-ce que l'Olympique Lyonnais
là, ça a été pire encore.
Ne se tire pas deux balles dans chaque jambe en définitive, mon cher Philippe.
J'ai envie de te dire que c'est pire.
Blanc, on le connaît un peu. Grosso, on connaît moins. On connaît le joueur, on connaît moins l'entraîneur.
C'est la même chose, non ?
Grosso. Bah oui, sur les impressions actuelles, oui. Après, au niveau de la personnalité, pas du tout. Mais enfin, bon, voilà. Après, au niveau du jeu, oui, pour l'instant.
Mais je parle surtout de la personnalité et de la façon de faire jouer les
équipes. Je crois pas que Grosso ce soit blanc au niveau de la personnalité. Ah, Stéphane.
Un peu plus fougueux. Moi, je connais pas. Je connais bien Laurent Blanc, mais je connais pas du tout.
Oui, c'est pareil. Moi, je connais pas Grosso.
En apparence, en tout cas.
Oui, c'est vrai qu'en apparence, il fait penser.
Après, dans le jeu, c'est sûr que c'est mieux.
On va parler tout à l'heure. On parlait de Marcelino. Il se rapproche plus de Marcelino que Gattuso. C'est pour ça que je dis que pour moi, il y a peut-être lui hors de casting à 100 as. Est-ce que c'est le coach? On va voir, hein, mais est-ce que c'est le coach qu'il fallait un peu, c'est vrai que c'est la chance de sa vie, on peut comprendre lui qu'il l'a saisi cette chance là est-ce que c'est quelqu'un qu'il fallait à ce moment là c'est ce qu'il avait besoin l'OL, je sais pas.
Ils finiront la saison personne avec Antonetti,
peut-être venir aussi, hein.
Ils finiront la saison avec Antonetti en pompier de service. Il fera les 10 dernières journées, il les sauvera peut-être sur la dernière journée,
pourquoi pas,
ils repartiront sur un nouveau.
C'est
toujours ce qui se passe en France, on ressort Antonetti, les Dupras, les Comboiré,
mais ils auraient même
et on repartira cet été avec un nouveau coach. Oui,
bien sûr, moi c'est ce que je dis.
Répète les mêmes erreurs.
C'est un coach qui va arriver avec de l'expérience, comme tu as dit. On connaît très bien. Dès qu'il y a un club qui est en déficit et il reste pas beaucoup de journées et tu as un petit budget, tu appelles Antonetti, il débarque direct.
Il te demande même pas plus du SMIC.
Il demande pas plus du SMIC. Il vient, il fait son petit boulot et il rentre dans sa petite caserne. Non,
mon cher Lag, justement, est-ce qu'il n'y a pas trop de similitudes entre Grosso et Laurent Blanc et Grosso pour espérer avoir un changement?
Mais il y en a trop. Il y en a trop. Moi, j'espère pas avoir un changement. J'ai commencé directement, franchement. Grosso, ils ont récupéré Grosso. Excusez-moi de l'expression, mais c'est de la merde. Il va pas faire du bon boulot avec Lyon. Ça m'étonnerait très fortement. Et j'ai vu contre Brest ce que ça a donné. Le gars, il est arrivé, il a mis Cherki sur le banc. Ok, je me suis dit, bon, peut-être qu'il arrive avec une nouvelle révolution ou quoi. Je regarde le match. C'est encore pire. C'est encore pire, excuse-moi, mais dans cet effectif-là, Cherki, même si sur tout le terrain il marche, tu ne peux même pas le faire sortir. Clairement, tu peux même pas le faire sortir, même s'il fait que de marcher. Parce que le reste, c'est catastrophique. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Il fait sortir Cherki, il fait sortir Lacazette pour faire rentrer Cherki. Il n'a pas compris que les deux ensemble, ils avaient plus de chances de marquer un petit but que l'un sans l'autre. Franchement, Grosso, pour moi, il va être viré d'ici la 20e journée et encore. C'est très bien s'il tient jusqu'à la 20e journée. Et après, on n'en reparle plus. On appelle un pompier de
santé. On appellera Comboiré, on lui mettra un casque de militaire sur la tête et tout ira bien. Ouais,
on en revient au recrutement. Hein, parce que quand tu vois quand même les joueurs, bah justement Brest.
Est-ce qu'on peut parler de recrutement à Lyon cette saison, franchement ?
Je sais pas, non, mais quand tu vois à Brest les joueurs qui rentrent, justement, et qu'on, pour revenir à ce que vient de dire, qu'on a un peu imposé finalement à Grosso le changement Lacazette là qui était un peu pressenti, c'est faire entrer Kadewere et Baldé les deux mais même je joue la montée en Ligue 2, je les prends pas dans mon équipe.
Kadewere
en tout cas sur ce niveau là quoi.
Non, Maman Baldé, je suis désolé. Maman Baldé, non, t'abuses un peu Stéphane. T'abuses, Maman Baldé, t'abuses.
Mais Kadewere, il a raison.
Kadewere, son nom, il est
Kadewere.
Est-ce que t'as déjà vu sur bien sûr j'exagère,
c'est le cousin de
là. Non, mais bien sûr sur
il le défaut.
Non,
mais
Kadewere, ah d'accord,
je rigole. Ah bon, il croit vraiment.
Non, mais t'as
J'ai une tête à m'appeler KDORS.
T'as raison, t'as raison. Je faisais exprès pour exagérer, mais sur ce match, justement, le commentateur, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était juste là qu'on venait avec, là, sur la chaîne où j'ai regardé le match, il disait, ben non, Cherki va rentrer tard parce que la seule solution qui reste à Grosso, c'est de sortir la casette s'il veut faire rentrer Cherki. C'est ce qui s'est passé. Moi, derrière ma télé, je me disais, mais non, même s'il a fait rentrer Baldé à la mi-temps, c'est Baldé qui doit ressortir sur ce match. Hein. Non, mais je parle de ce match. Hein. Le mec, mais ils n'ont rien apporté. Donc, au-delà de ça, peut-être qu'il va apporter dans un moment.
Rien apporté.
Non, mais il n'y a rien. Cacré, je pense que c'est une escroquerie sans nom. Alors, effectivement, en partant...
Il s'est perdu. C'est Lyon qui l'ont tué. Ils l'ont fait, d'accord. Et ils l'ont tué. Ils sont
J'accepte tout à fait ton truc. En tout cas, aujourd'hui, il est tué. Tolisso, n'en parlons plus. Ouais. N'en parlons même pas.
Champion du monde, Tolisso. Attention.
N'oubliez pas ce qu'il a dit.
Le petit qui joue à droite, là. Le petit qui joue à droite. Là où il y a un joueur pour moi, il y a deux joueurs dans l'équipe actuellement. Il est lâché, c'est Lacazette. Il a lâché le morceau.
C'était Chirou,
sinon, il y a un joueur pour moi dans cette équipe, c'est le latéral gauche, là, l'Argentin. Tagliafico, là. Pour moi, c'est le seul joueur. C'est
je me demande même ce que Tagliatelle il fait là-bas. Franchement, le pauvre. Champion du monde, tu te retrouves à jouer avec Mitlond Nice et Lobren. Qu'est-ce que ça fait mal quand
il a failli partir à l'Ajax quand même. Donc, du coup, il se dit, bon, finalement.
Franchement, je pense que ça aurait pas été mauvais au change. L'Ajax, ça va changer rapidement. L'Ajax, ça va changer rapidement. Ça va se remettre.
On en sait rien.
En tout cas, c'est vrai que moi, je le prends dans le top 5 des équipes françaises. Dans tous les clubs français, il a son mot à dire, lui, Tagliafico.
En fait, alors, avant le débat, je pensais que Lyon pouvait se maintenir, mais là, c'est cuit, en fait.
Et justement, c'est tellement clair que je voulais vous demander...
Le scénario des Lach, là, il est Antonetti qui
sauve Lyon,
c'est une prophétie.
Ou à Comboiré.
Alors, les amis...
Ou à Duprat, non, Duprat, il n'y arrivera pas.
Alors, les amis, si je vous déjà, on a posé la question dans le sommaire.
Non, Comboiré non plus. Comboiré, il va accélérer la...
Ah ouais, la descente aux enfers. Au bout de deux journées, ils vont...
Il y a Jocelyn Gourvenec avec de libre.
Ouais, il n'y arrivera pas. Antonetti peut y arriver.
Mais non, attends, tu vas pas faire
les mêmes choix que Grosso. Tu vas pas faire les mêmes choix que Grosso. Il a dit la casette à la place de.
Tu vas pas faire Laurent Blanc, Grosso, Gourvenec.
Non, j'ai l'idée du siècle en vrai. Ouais. Raymond Domenech.
Non, mais tu rigoles, mais.
Jean-Michel Aulas, il va sucer.
C'est Raymond Domenech qui fait monter Lyon en Ligue 1. Et là, je crois qu'on est en 1989.
Ah ouais, c'est vieux, ça.
Ah, donc c'est très, très vieux, mais. Ça,
c'est un amoureux de l'Olympique.
C'est quand même un des principaux faits d'armes. Hein. La question a été posée dans le sommaire, les amis. Hein. Votre top 5 final dans cette Ligue 1.
Bon, les mêmes PSG.
Je me lance.
Oui, à bout.
Moi, Rennes. Je vois Paris, Monaco, Marseille, Nice, Rennes.
Ouais. Tu peux reprendre ?
Paris,
oui.
Monaco, que je trouve très cohérent.
Tu vois Monaco deuxième ?
Ouais, très cohérent et je trouve qu'ils ont une équipe très solide, très bien construite.
C'est dire le niveau de la Ligue. Hein.
Et Monaco qui joue pas là, qui joue aucune Coupe d'Europe, qui donc...
Qui n'a pas de pression.
Ouais, c'est ça. Avec Balogun qui recrute... Ouais, c'est sûr qu'à lui, c'est pas lui que t'auras de la pression. En troisième position, je vois Marseille. Nice, que je trouve très intéressant avec leur nouveau coach. Je pense que c'est une des équipes à suivre. Et je vois bien.
Attention au Boulard, attention au Boulard à Nice. Hein. Attention au Boulard.
Ouais, mais là, le coach, il m'a l'air quand même un peu différent des coachs précédents.
Ils ont beaucoup de chance quand même, là, sur le début de saison. Contrairement, par exemple, à Marseille, si on veut, pour pas comparer avec nos équipes, par rapport à Marseille, par exemple, c'est un peu. Ils ont beaucoup de chance.
Moi, je les vois finir 4e. Et je règne en 5e position.
5e position avec l'ami Genesio. Cher Stéphane.
Très bon entraîneur.
Très bon entraîneur. Ouais. Moi, j'avoue, là, je suis assez déçu par Rennes. Tu m'aurais demandé ça avant le début de la saison, je l'aurais sans aucun problème.
Ton top 5 final.
Ouais, mais là,
c'est maintenant qu'il faut se mouiller.
Ouais, maintenant, c'est un
début
peu
de saison là.
C'est on est qu'à 6 journées. Hein.
Donc, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Hein. D'où la question. D'accord avec Abou sur les deux premiers, ouais. Paris et Monaco.
Ah, les amis, vous avez vu Monaco jouer
Paris et Monaco.
Pas terrible, hein.
T'es malade ou quoi?
Là, Malik, par contre, t'as pas regardé Monaco jouer.
Ah si, Monaco c'est fort cette saison. Ah non, ouais. C'est très fort. En et même défensivement, parce que d'habitude ils encaissent à chaque fois des
manger à la maison avant-hier encore face à Nice.
Mais ils sont pas fait manger.
Sur deux buts loupés. Sur deux buts loupés de Balogun. Je t'explique que c'est Ben Yedder sur le terrain, ça fait deux.
Là, je suis pas d'accord du tout.
C'est Ben Yedder sur le terrain, ça fait deux.
Ils se sont pas fait du tout manger.
Du tout.
Ils marquent.
Ils sont fait prendre un hold-up.
Tu me connais, j'aime grossir le trait. Ils se sont fait battre. Ça,
non,
t'es d'accord.
Ils ont pris un hold-up. Deux pénaltys loupés.
Pour Monaco, tout va dépendre, pour moi en tout cas, d'un joueur. C'est Golovin. Si Golovin il se blesse pas,
il est blessé là.
Isaïe est blessé, ça y est, bon bah voilà. S'il se blesse pas de la
et
saison.
Et Minamino, ils se sont les deux absents de l'entraînement aujourd'hui, Stéphane.
Ouais, mais
non,
bon,
non, mais mon cher Stéphane, là tu dissertes beaucoup, ton top 5.
Mon top 5 ?
Ouais, on n'a pas besoin d'argumenter trop longtemps. Non.
Paris, Monaco, ouais. Marseille. Ça va être le même qu'à vous, quasiment. Lille, moi je vois bien Lille, j'aime bien Lille. Lille. Ouais. Lille dans le top 5. Et on va dire Rennes quand même, même si pour l'instant...
Mais vous ne prenez pas de risque hein, pour
bah
l'instant.
Non, mais
hein.
Qu'est-ce qu'il peut faire ?
Sachant que Lens a été deuxième la saison dernière, ouais, vous ne prenez pas de risque.
Il n'y aura pas d'équipe sur prochaine. Pareil, Paris, Monaco, Marseille, Nice et Rennes.
Philippe ah ouais. Dubrest pour le fun.
Oh là là, salé à toi. Dans le micro, dans le micro.
Excuse-moi. Genre, moi, ça va être Paris Saint-Germain, ouais. Monaco, Nice et à Rennes que je mets dedans.
Ouais.
Mm-hmm. Et je pense Lille. Hein.
Ouais, Lille. Ah, Lille
ouais.
Ah, quand même. Alors, et là, il y a
pas
quoi
Marseille.
Marseille, j'attends.
Attends, là, c'est le supporter parisien qui parle.
Non,
là,
non,
c'est...
Marseille,
c'est l'amateur
Marseille.
De foot, l'observateur.
Non, c'est mon avis à moi.
Donc,
bon,
il n'y a pas de Marseille là-dedans.
Pour
on est d'accord.
Avec le contexte qu'il y a actuellement, ça laisse.
Mon cher Eladj,
faut remettre dans l'ordre le top 5 ou juste donner
non, dans
son
l'ordre,
top 5.
Dans l'ordre, bien sûr.
Dans l'ordre.
C'est plus agréable.
Ok, moi, je vois le PSG premier.
Ouais.
Le deuxième je vois bien, attention, je vois bien Lyon.
Mm-hmm.
Non, je rigole. Ah ouais. Non, je rigole. Non, sérieusement, non. Deuxième, je pense que... Marseille ne finiront pas deuxième. Je pense que ça va jouer, j'ai un doute, hein, ça va jouer entre Rennes et Marseille. Pour moi, entre Rennes et Marseille, la deuxième et troisième place. Marseille,
pas Monaco.
Pas Monaco,
ouais.
Oh ouais. Pas Monaco. Franchement, honnêtement, non, qu'est-ce que je dis ? Je raconte des conneries. Entre Monaco et Rennes, pardon.
Ah oui.
Entre Monaco et Rennes, le top 3. PSG, premier, ça c'est sûr. Et entre Monaco et Rennes, ça va jouer la deuxième, troisième place. Et je pense que Marseille vont compléter, être quatrième.
C'est une bonne chose. C'est les qualifiés en Ligue des Champions.
Quatrième. Ah oui, quatrième, ça.
Non, barrage. Non,
si,
barrage.
Si, on passe là,
au barrage.
Ça allait pour les barrages, mais c'est.
Et puis les barrages, c'est pas leur truc.
Voilà, au barrage, Panathinaikos.
C'est pas leur truc.
T'es mauvais, t'es.
Et tu sais qu'on passe tous les barrages depuis quelques années. Hein.
Voilà. Ouais, mais là, ce sera différent, ce sera plus facile.
Ouais. Oh le tacle.
Du coup, voilà, Monaco, Rennes, PSG. Marseille peut-être pour être quatrième et
aucune originalité hein, et dans vos cinq paris là maintenant.
Mali, quand tu regardes
cela dit c'est vos choix,
c'est
je m'attendais à un Toulouse qui montrait dans Toulouse, le top 5.
Toulouse l'année dernière après tu reprends toujours les mêmes.
Strasbourg.
Moi je pense que Toulouse ils peuvent être même relégués, attention. Toulouse peuvent être relégués.
Je suis d'accord.
Ils jouent un peu sur les mêmes tableaux, un peu comme l'a fait Nantes. Et c'est passé.
Il y a une équipe qui est mal barrée aussi, amis, c'est Clermont.
Mine de rien, c'est vrai qu'on peut, en tout cas, moi, à mon niveau, je m'y habitue difficilement. C'est juste qu'on est passé à 18 clubs. Hein. Donc ça,
c'est tendu.
Ah, c'est très, très tendu. Hein. Ça va être très, 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 très short hein, de le final dans ce championnat de France. Là. Il nous reste encore deux sujets, les amis. On va clore avec Cristiano Ronaldo qui brille en Arabie Saoudite. Est-ce qu'il faudrait justement prendre au sérieux le championnat saoudien au point même de déplacer le ballon d'or qui irait trouver Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite ? On y revient dans quelques instants. Mais juste avant, on va parler de Jonathan Clauss. Jonathan Clauss, est-ce qu'il doit aujourd'hui être appelé par Didier Deschamps ? Il a un bon début de saison. Est-ce que là-dessus, au moins, on est unanime ?
Oui, il a un bon
Stéphane,
début de saison.
Oui.
Babou ?
Oui.
Salé ? Bon début de saison pour Jonathan Clauss ?
On va demander à Barcola.
Ouais. Ouais. Là,
oui.
Bon début de saison, Philippe,
ouais,
on est d'accord.
Octobre, après on verra. Ouais.
Alors,
la suite, ouais.
Selon vous, est-ce que ça mérite un appel de Deschamps ?
En fait, pour moi, ça mérite un appel, vu les joueurs qu'il y a.
S'il est en forme,
le joueur lui-même, intrinsèquement, je trouve pas, comme il le disait, même là, il s'est fait mélanger par Barcola ce week-end. Intrinsèquement, je trouve pas que ce soit un joueur fantastique. Mais je suis pas sûr que ce soit pire que Pavard. Après, c'est un débat que je veux bien voir, hein. Ouais. Mais je suis pas sûr que ce soit plus mauvais que Pavard. Oui. Moi, je suis pas un joueur fan. S'il y avait meilleur que Clauss en équipe de France, j'aurais pris. Mais à l'heure actuelle, vu son début de saison, le fait qu'on avait des doutes qu'il puisse s'adapter à une défense à 4, il le fait très bien en ce début de saison. Mais par contre, en finale de Coupe du Monde, si t'as Clauss à droite et qu'en face, t'as un Brésilien ou un Allemand, c'est chaud. Hein. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud.
Ah ouais.
Mais c'est, t'as
ouais,
pas mieux. Malheureusement, t'as pas mis.
Pour les matchs du mois d'octobre,
ouais malheureusement, t'as pas mis.
Ça l'est.
Actuellement, ouais.
Clauss a déjà été appelé en sélection.
Oui,
hein,
bien sûr.
On le rappelle.
Et il a déjà une expérience en équipe de France.
Ouais,
déjà.
Est-ce que tu penses qu'il mérite d'avoir une seconde chance ?
Bah, s'il est en forme.
Il peut, bien sûr, s'il est en forme.
Sachant que le sélectionneur est le même, à savoir Didier Deschamps.
Il le connaît. Il a déjà été en sélection. Donc, il a déjà expérience, etc. Et là, il fait un bon début de saison, comme on vient de dire. Après, comme il a dit Abou, en équipe de France, c'est pas comme si non plus on avait des. des génies à ce poste-là. Il y a Koundé, quand il passe sur le côté droit, c'est un peu ric-rac. Et Pavard, c'est ça la ramasse. Donc en soi, il a un truc à jouer. Moi, je pense qu'il mérite sa deuxième
chance. T'as mal au Gustavo, faut voir ce que ça va
et
donner. Et Simakan aussi.
C'est vrai que Gustavo, excuse-moi pour rien, Gustavo qui fait aussi des matchs dégueulasses à Chelsea.
Chelsea,
il
regarde jouer
plus haut. J'ai pas blessé là.
Et Philippe,
c'est Claude qui peut jouer plus haut.
En même temps, on sait où est Chelsea aussi, les amis.
Et Claude qui peut jouer plus haut.
Ouais, cher Philippe, vas-y, t'as la parole maintenant.
En faux.
Si, il peut jouer en défense à 3, donc il peut prendre le couloir.
Il peut jouer plus haut aussi.
Là, c'est ton temps de parole là maintenant. Vas-y,
c'est bon.
Non, mais t'as parlé en dessous. On t'a pas entendu. Donc,
non, mais je te dis, il peut jouer en plus, il est polyvalent. Claude.
Non, là, c'est ça. Il a une polyvalence.
En faussette, parce qu'on
a une polyvalence qui peut intéresser Didier Deschamps. Voilà. Comme Didier Deschamps est bien passé en défense à 3 et en défense à 4. Ça peut être intéressant. Donc,
moi, j'ai l'impression qu'il a une forme de. Il est un peu tendre, non, Claude?
Ouais, même.
Oui, mais bon.
Oui, bah, la question, elle est de l'équilibre. C'est-à-dire que tu prends, mettons, même Pavard, même si Pavard, des fois, il se prend aussi des vents, ou Koundé, tu vas dire, tu choisis la priorité à la défense. Tu vas peut-être plutôt opter pour un Pavard ou un Koundé, et sur le papier en tout cas. Et puis, si tu choisis le jeu et tout, tu prends. En tout cas, moi, j'ai répondu oui. Instantanément, je confirme, moi je le prendrai. Comme l'a dit Abou, c'est pas par rapport à la concurrence qu'il y a. Si c'est à latéral gauche, quand tu dis tu as les deux frangins Hernandez, tu comprends pourquoi Digne il est pas prêt de remettre un pied en équipe de France, ou Ferland Mendy. Alors Ferland Mendy, ce qui peut être intéressant à droite, je sais pas, mais t'as pas la concurrence, quoi, c'est fini, quoi. T'as pas la place à droite, il y a de la place, quoi. Donc c'est quand même assez assez incroyable qu'il serait pas appelé, quoi. Moi je pense, mais maintenant avec Deschamps, quand il écarte des gens, en général tu les revois plus, hein. La Cazette, Fekir,
non mais il en a rappelé,
non, mais ça dépend des postes, hein.
Comment
il en a rappelé, il a rappelé Payet, Valbuena de mémoire,
Benzema, il a fini par le rappeler,
Dembélé aussi,
il en a rappelé quand même.
Et moi, Dembélé l'a jamais vraiment écarté.
Moi, il y a quelque chose qui me pose problème aussi avec Jonathan Clauche, c'est sa gestion des émotions. À l'époque, le mec, sa première sélection en équipe de France, les caméras, les pleurs et tout. Ok, t'as galéré. Ok, t'as souffert. Ok, c'était dur d'arriver là. Mais le mec, il pleure tout le temps. Il n'a pas été appelé pour la Coupe du Monde. Il est encore en train de pleurer.
Mais en quoi c'est mauvais de pleurer?
Mais non, il est trop émotif. Moi, je pense que c'est ça qui dérange Didier.
Il est juste humain.
Oui, d'accord. Mais il est trop émotif. Lui, tu pars avec lui à l'Euro, c'est chaud. Non, vraiment, je ne veux pas te closer en équipe de France.
Pourquoi il y a un lien avec ses performances?
Si, tu vois, t'as vu ça première rentrée en équipe de France lors de sa première sélection, vous vous souvenez de son entrée?
Le mec
il est trop émotif, il est trop doucement.
Je pense que t'es
autant professionnel que les autres, doucement.
Moi je pense que d'ici là il a quand même travaillé ça. Je pense que aujourd'hui il peut jouer à droite parce que il y a pas vraiment de concurrence à droite en équipe de France, clairement. Tu vas faire jouer Koundé parce que t'as pas le choix, que Koundé c'est pas vraiment son poste et il fait pas des miracles non plus là-bas. C'est juste une maintenance. Pavard, je préfère ne pas en parler parce que je pense que Klose c'est mieux que Pavard, en tout cas actuellement. Et
attention, avec Didier Deschamps, la dimension internationale compte énormément. Didier Deschamps apprécie beaucoup les joueurs qui sont sortis justement de leur cadre,
tous les sélectionneurs,
de formation, oui, et tout ça, aller se jauger avec l'extérieur, se frotter à l'étranger et revenir plus fort. Didier Deschamps, c'est quelque chose
tous les entraîneurs
qui beaucoup pour aller s'imposer à l'étranger.
Il faut savoir qu'il s'entend pas déjà de base avec Pavard.
Maintenant, c'est un élément qui est très important pour Deschamps.
Maintenant, il faut savoir qu'il s'entend pas de base avec Pavard. Pavard, là, il est à l'Inter. Ses débuts, ils sont pas ouf. Moi, je regarde les matchs de l'Inter. Ses débuts, ils sont pas ouf avec l'Inter. Du coup, je pense que ça peut jouer dans la balance. Après, voilà, maintenant, il y en a qui pleurnichent beaucoup plus que d'autres. Moi, je me rappelle de Théo Hernandez qui pleurnichait parce qu'il n'était pas appelé par Didier Deschamps. Et à chaque fois, à chaque but, chaque célébration, il faisait ça. Tu m'appelles quand? Faut savoir ce qu'il disait à Lucas Hernandez aussi et ce qu'il disait à Didier Deschamps derrière pour qu'il vienne enfin en équipe de France. Du coup, moi, je pense que c'est pas vu d'un très mauvais œil. Maintenant, s'il vient, en tout cas, faut qu'il soit vraiment conquérant et plus apte à se mettre à
disposition.
Il mérite. En tout cas, en vue de ses débuts,
il mérite.
Il y a pas grand chose.
Son début de saison, oui, il mérite d'être appelé. Ouais. Mais qu'il arrête de pleurer, Jonathan. Je te le demande.
Moi, je dirais plutôt à Jonathan de partir à l'étranger s'il peut et de s'imposer.
Il a 31 ans. Je crois qu'il a au moins 31.
Après, il y avait l'Atletico sur lui en janvier. Il y a l'Atletico là.
Qui court autant, 31, c'est chaud.
C'est chaud. Et puis après, ça dépend de. c'est toujours pareil, ça dépend de la formation que veut mettre en place Didier Deschamps. Mm-hmm. Là, je crois qu'il y a eu un dernier match là où il avait une équipe vraiment très très offensive, quoi. S'il joue qu'à deux récupérateurs avec des joueurs très offensifs, à ce moment-là, il va privilégier plutôt une option très défensive à droite. Et, oui. Et on parle, vous savez qu'on parle, petite parenthèse, on parle Enrique, une rumeur est sortie. Qui dit que quand Mukiele sera revenu à son prime, quoi, à son meilleur niveau, il préférerait choisir Mukiele à la place d'Hakimi, parce qu'avec son équipe, notamment quand il met l'équipe qu'il a mis contre l'OM dimanche, il privilégierait une solution plus défensive que ça.
Qui a dit ça?
C'est une rumeur sur Luis Enrique. Qui paraît folle.
Ça serait fort.
D'où elle vient la rumeur? C'est pas n'importe quoi. Non, on n'a même pas du tout parlé.
C'est le club qui a annoncé que l'OM était vendu.
Personnellement, j'y crois pas trop, mais on en parle, quoi.
Dernier chapitre de son bout du foot, mon cher Jason. On va transiter par le sommaire et puis on va parler de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il mérite le Ballon d'Or étant en Arabie Saoudite? Sommaire.
Au sommaire ce soir dans Au bout du foot, l'Olympique de Marseille en plein tumulte. Est-ce que Pablo Longoria tiendra bon jusqu'à la fin de la saison? La question est posée. Après un départ fracassant de Marcelino, la gifle reçue par le Paris Saint-Germain, voilà que Gattuso débarque à l'OM. Grosse prise ou coup de poker? Nous posons la question au chroniqueur. Jonathan Clauss au sommet de sa forme, mérite-t-il un appel de Didier Deschamps? Coupes européennes, les clubs français restent invincibles en Coupe d'Europe lors de la première journée. Est-ce un signe prometteur pour cette saison? Nos experts vous éclairent de leur savoir. L'Olympique lyonnais en perdition. L'Olympique lyonnais s'enfonce dans les abysses après sa défaite contre Brest. La Ligue 2 menace-t-elle les Gaunes? La question qui fait trembler les supporters est posée. Après 6 journées de championnat de Ligue 1, osons-nous prédire le top 5 final? Nos chroniqueurs se lancent dans l'exercice périlleux. Rendez-vous dans la chronique, quel choix, pour quel résultat? Cristiano Ronaldo brille en Arabie Saoudite. L'étoile CR7 continue de scintiller avec un récent doublé. Faut-il prendre au sérieux le championnat saoudien dans la course au Ballon d'Or? La question qui agite le monde du foot est posée ce soir. Commentaires, analyses, décryptage, pronostics audacieux. Installez-vous et soyez prêts à être immergés dans l'univers fascinant du ballon rond et plongez avec nous dans Au bout du foot. Première saison, deuxième épisode.
Au bout du foot, dernier chapitre de cette émission avec nos amis Philippe Carnu, journaliste présentateur de Mon Paris Sport sur Mon Paris FM. Notre ami Aboubakar Kanté, journaliste rédacteur en chef de Mon Paris.
Kanté, pas Kanté. Hein.
Kanté, Mon Paris FM, je sais bien. Stéphane Desenclos du quotidien du sport.fr, attention. Et également notre ami Eladj. Bienvenue Eladj, je te vois, t'es bien. Merci à l'aise là. Avec Salé Dembélé, lui aussi est amateur de foot, supporter du PSG. Et puis notre, comme je l'ai dit, notre chroniqueur maison Eladj, spécialiste du foot sur Mon Paris FM. Nous sommes également en ligne avec Ibongo Guy. Bonjour Ibongo.
Salut, enchanté.
Ouais, si tu peux parler un peu plus fort s'il te plaît, comme ça tous et toutes vont t'entendre. Tu es attaquant, salut. Tu as été formé au Mans, en Détroit, Suisse. Désormais tu évolues à l'Ancy FC, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Alors merci de participer justement au bout du foot aujourd'hui. Tu as souhaité interagir avec nous au sujet justement de Cristiano Ronaldo qui brille en Arabie Saoudite. La question qu'on a posée aujourd'hui, c'est de savoir si il fallait prendre ce championnat saoudien au sérieux, au point de pouvoir déceler un joueur qui y participe, au point d'avoir le Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo en l'occurrence.
Bah, pour moi, totalement, parce que si la question se pose, comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc, si la question se pose, c'est que quelque part, oui, quand même.
Et quels sont les arguments que tu peux avancer? Il n'y a pas que ça. Moi, je peux partir de l'idée que le championnat saoudien est relativement jeune au point de pouvoir prétendre aujourd'hui avoir un joueur en son sein pour obtenir, pour challenger le Ballon d'Or, tout simplement.
Oui, je partage ce que tu dis et ce que tu penses, et c'est légitime. Mais il faut aussi se dire une chose, c'est que c'est pas la première fois désolé, il y a du bruit derrière, je suis dans un magasin. C'est pas la première fois qu'un pays ou une nation essaye de conquérir le foot, quoi. Le Japon, ils ont essayé, ça a pas marché. La Russie, ils ont essayé, ça a pas marché. Il y a pas mal de pays qui ont essayé, mais ça a pas marché, quoi. Donc là, ça marche avec l'Arabie Saoudite et je pense qu'il faut vraiment le prendre au sérieux.
Stéphane Desenclos, Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or.
Quand
ça te...
Quand Non mais quand mais je pense que la question...
J'ai même pas fini ma question.
Avec
je me fais attaquer comme ça.
Avec tout le respect, pour moi, il y a deux débats. Est-ce que, comme a l'air de effectivement suggérer, je pense à raison...
Ibongo Guy.
Voilà, effectivement, là, pourquoi il ne faut pas, je pense, dénigrer autant que ça l'Arabie Saoudite sur son évolution. On ne sait pas ce que va devenir. Au jour d'aujourd'hui, c'est inconcevable. Pour moi, on l'a vu d'ailleurs, comment un joueur qui a fait une telle Coupe du Monde, par exemple, ou qu'on a vu sur ces derniers trucs, est capable de postuler pour un Ballon d'Or, c'est inconcevable, quoi. Je veux dire, on a vu encore dernièrement des matchs de Neymar, par exemple, avec son club à Lilal en Arabie Saoudite, c'est une catastrophe, les défenses et tout. Il y a un ou deux clubs très bons parce qu'ils ont recruté beaucoup de joueurs, mais sinon, il n'y a absolument pas ça. C'est comme pour les États-Unis, par exemple. C'est comme si on dirait que Messi pourrait avoir le Ballon d'Or. Oh, pardon, il va avoir le Ballon d'Or. Non, mais là, parce qu'il termine, mais c'est-à-dire, c'est pas possible. Non, pour moi, c'est inconcevable. C'est inconcevable, quoi. Que même.
Guy. Après, c'est vrai que parler de ce Ballon d'Or 2022-2023, c'est un petit peu prématuré.
Ça, non, mais dans l'absolu, justement, la question, elle est posée
mais
à dessein.
Mais voilà, moi, je pense dans un futur proche ou plutôt lointain, c'est une question qui peut se poser. Pourquoi ? Parce que c'est des joueurs qui, quand ils viennent en Europe pour Cristiano Ronaldo ou quand ils vont en Afrique pour Sadio Mané, c'est des joueurs qui passent pas inaperçus, qui continuent de briller, ils sont pas en vacances. Encore, c'est un championnat où il se passe rien, il n'y a pas de... En fait, c'est un championnat qui a attiré non seulement des joueurs et qui a attiré beaucoup de télévisions. Messi, il a signé aux États-Unis, mais aucun droit télé, il n'y a aucune chaîne qui passe ses matchs, quoi.
Je sens que tu vas finir là-bas, Guy. Hein.
Non, pas du tout. Mais c'est juste qu'il faut, au bout d'un moment, il faut voir les choses en face. C'est que des joueurs comme Sadio Mané, il pouvait encore jouer en Europe. Aymeric Laporte, il pouvait jouer encore en Europe. Firmino, il pouvait encore jouer en Europe. Et j'en passais d'autres. C'est des joueurs qui pouvaient encore jouer dans pas mal de clubs en Europe. Mm-hmm. Mais s'ils ont fait ce choix-là, c'est qu'ils ont senti qu'il y avait moyen de faire évoluer un championnat, faire évoluer un football ailleurs qu'en Europe.
Faire évoluer aussi le compte bancaire, non ? Surtout ça, non ?
Le compte bancaire, bah bien sûr.
Voilà.
même un joueur comme Benzema, c'est pas un joueur qui pouvait plus rester au Real. Il pouvait encore rester au Real. La preuve, depuis qu'il est parti, on voit bien comment ils sont en attaque. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est pas des mauvais.
Non, mais attends, quand tu dis depuis qu'il est parti, on voit bien qu'ils sont comment en attaque, ça veut dire quoi ? Parce qu'ils ont gagné quand même la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, sans lui, hein, on est bien d'accord. Hein.
Non, mais je parle de Benzema là, j'ai parlé de Benzema.
Ah, Benzema, ok, j'ai pensé à Cristiano. Benzema, ouais.
Okay. Non, je parle de Benzema, non. Il faut dire qu'en fait, c'est Benzema, il aura pu rester encore au Real, mais on voit bien comment le Real, ils sont actuellement, à l'heure actuelle, bien sûr, sans sa présence, quoi.
C'est clair. Salé, ouais. Est-ce que c'est une utopie ?
Bah pour le moment, c'est trop tôt. Et en plus, le championnat saoudien, il est encore nouveau. Là, pour l'instant, j'ai regardé quelques matchs. C'est très faible. Défensivement, c'est pas sérieux. Même les gars, ils y vont là-bas. C'est beaucoup pour l'argent. Là, je trouve, y a même les Sadio Mané, je les regarde jouer. Il n'y a pas la même envie que quand ils étaient en Europe. Voilà quoi. Donc là, certes, Cristiano Ronaldo l'a ramené une hype. Il a ramené beaucoup de joueurs. C'est vrai que par contre, par rapport aux autres championnats, soit russe, Japon ou quoi, je trouve que c'est le mercato le plus abouti. C'est qu'il y a vraiment des.
Ils ont fait mal à l'Europe.
Là, ils ont vraiment fait mal. Ils ont fait fureur. Là, franchement, il n'y a rien
mais
à dire par rapport.
Là, il le dit.
Ils ont fait. Non, franchement, ils ont fait dégâts par rapport à l'Inde où à l'époque ils ont essayé de d'attirer. Là, c'est vraiment concret. Carrément, Canal+, ils ont même racheté les droits de TV. Donc, ça veut dire que ça prend de l'ampleur. Je pense qu'il faut attendre encore un peu, c'est trop tôt.
Mais Canal+, qui achète les droits justement du championnat saoudien et qui délaisse la Ligue 1. Philippe, tu as bien fait d'intervenir là-dessus à l'entame de l'émission. Mon cher Eladj, tes impressions par rapport justement au Ballon d'Or qui pourrait revenir à un joueur appartenant au championnat saoudien, tu en penses quoi ?
Moi, franchement, je pense que c'est une utopie parce que dans le sens où je dis ça, actuellement, je sais que ça ne fera pas, même si demain Cristiano Ronaldo met 50 buts dans le championnat saoudien et qu'il remporte toutes les coupes possibles, je pense même pas qu'ils le mettront dans le top 10 parce que l'Europe est un peu trop raciste et ils en veulent aussi.
Ça va jusque-là ?
Oui, ça va jusque-là. Ils en veulent aussi à l'Arabie Saoudite de les avoir privés de beaucoup de joueurs et d'avoir pris leur. leur plus grand joueur, clairement, voilà, ils en veulent un peu, ils leur en veulent un peu d'arriver à coup de chèque. Tout le monde,
c'est pas plus
tôt, tout le monde
c'est
est contre
c'est
l'Arabie
plutôt
Saoudite,
une question
mais dès qu'ils arrivent, tout le monde est content.
C'est pas plutôt une question d'intérêt économique, de business, plutôt que de parler de racisme comme ça, pur et dur.
Ah non, moi je te dis clairement ce que je pense, parce que je pense que ça en fait partie. Voilà, je dis pas que c'est la cause principale ou quoi qu'est-ce, mais ça en fait partie. Ça en fait partie clairement, et je pense pas que demain, en tout cas, bon, en tout cas pas de sitôt, avec tous les joueurs qu'il y a en Arabie Saoudite, et maintenant, moi, de temps en temps, ça m'arrive de regarder les matchs en Arabie Saoudite. Hein. Je dis pas que tous les matchs sont excellents, etc. Loin de là, non, du tout. Mais il y a une évolution. Il y a une grosse évolution quand même. Moi, je vois en tout cas, il y a une évolution. Il y a une évolution, que ce soit dans la compétitivité, etc. Il y a une évolution dans le championnat saoudien. Ça serait quelque chose. Pourquoi on pourrait pas le prendre pourquoi on pourrait pas le prendre en compte comme d'autres championnats?
La question est posée. Guy, je vais te laisser ponctuer. On va transiter par notre ami Aboubakar. S'il y a bien quelqu'un qui connaît l'Arabie Saoudite ici, c'est bien lui. Il en revient. Ouais. Il en revient déjà il y a quelques semaines. Mon cher Abou, est-ce que tu penses qu'on peut envisager de voir un joueur appartenant au championnat saoudien gagner un jour, ne serait-ce même que postuler pour un probable Ballon d'Or?
Non, pour l'instant, en tout cas, peut-être un jour, oui, parce qu'on parle même d'un jour, pourquoi pas les intégrer à la Ligue des Champions. Hein. On a la mondialisation du foot avec la Coupe d'Afrique 2031 qui ira même se jouer au Qatar. On a la mondialisation du foot, le mélange des genres. Donc pourquoi pas un jour? Mais pour le moment, moi je pense que c'est trop tôt. Et même les Saoudiens eux-mêmes, la population en tout cas, les réalistes sur ça. Et aujourd'hui, les jeunes Saoudiens qui habitent en Arabie Saoudite, ils sont plus passionnés par le foot européen. C'est des gens qui sont plus omnibulés par le Barça, le Real, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich. C'est même eux, la population, pour l'instant, elle a les yeux rivés vers l'Europe. Donc je pense qu'aujourd'hui, parler de ça, c'est un peu trop tôt. Mais dans les années à venir, je pense pas que ce soit utopique. Et comme il le disait au début de son intervention, Guy, je pense que le modèle saoudien, il y a moins de chances qu'il s'écroule, comme ça a pu être le cas avec la Chine ou l'Inde ou encore la Russie. C'est un modèle qui est parti pour durer. En tout cas, ils ont une vision, ça s'appelle la vision 2030. Le but, c'est qu'en 2030, le pays soit accessible et ouvert à tous. Et jusqu'en 2030, ils arrêteront pas d'investir massivement. C'est un pays qui peut le faire. C'est un pays qui a 240 milliards à investir en argent pur.
Au-delà des mots, justement, et en plus, outre le fait d'avoir 240 milliards, factuellement, sur le terrain, tu as vu quoi? Tu as constaté quoi?
Bah, c'est un pays de football déjà, c'est un pays de passionnés. C'est vraiment un pays de football. Et je pense que ça change des autres pays où le football a essayé de se développer en attirant des stars. C'est vraiment un pays de football, un pays de passionnés. C'est un pays où les infrastructures, elles sont aux normes, elles sont top. Ça construit vite, ça construit bien. C'est un pays où la formation, on donne aussi beaucoup de possibilités et de moyens aux jeunes de là-bas pour qu'eux-mêmes se développent. Donc moi, je pense qu'à terme, c'est un pays qui va falloir prendre très au sérieux. Mais aujourd'hui, parler de l'Arabie Saoudite et des joueurs qui sont là-bas comme candidats au Ballon d'Or, je pense que c'est un peu trop tôt.
Merci, cher Abou. Guy, pour ponctuer sur le sujet, tu dirais quoi?
En fait, je voulais revenir à ce sujet-là aussi de l'invitation.
Essaie de parler un peu plus fort, on t'entend assez bas.
Ouais, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que si c'est un championnat qui n'était pas pris au sérieux, ils n'auraient jamais reçu une invitation pour participer à la prochaine Ligue des Champions, quoi. C'est un truc qui est dans les tuyaux, c'est parce que vraiment, ils savent que c'est un championnat qui commence à élever son niveau avec les joueurs qu'ils emmènent, etc. Donc, s'ils veulent les...
Est-ce que c'est pas pour une question aussi d'argent, finalement?
Ça a été formellement démenti pour l'instant.
C'est sûr, il y a une question d'argent, c'est sûr.
Ben, notre ami du quotidien du sport, Stéphane, me dit que ça a été formellement démenti.
Ça a été formellement démenti. Pour l'instant, il n'y a strictement aucune preuve qu'ils aient été invités.
C'est vrai qu'on l'a tous plus ou moins lu, mais...
Ouais, voilà, on l'a plus ou moins lu, mais s'ils ont pensé à ça, c'est qu'ils pensaient quelque part que c'est un championnat qui attirait des équipes qui pouvaient concurrencer avec les équipes d'Europe. Et maintenant, imagine, dans le cas où ça se fait, je ne dis pas que ça va se faire ou que ça ne va pas se faire, dans le cas où ça se fait, une équipe comme Al Nassr joue la Ligue des Champions, les joueurs, ils sont légitimes pour prétendre au Ballon d'Or, on est d'accord?
Oui, mais ils sont légitimes, excuse-moi, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, ils sont surtout légitimes pour perdre des matchs, quoi. Hein, parce que Al Nassr, ils ne pourront pas faire grand-chose. Maintenant, où je te suis, moi, c'est sur l'évolution. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que c'est utopique et tout. Maintenant, sur l'évolution, effectivement, et le sérieux de ce qui se fait là-bas, effectivement, on y croit. Il va y avoir notamment un premier rendez-vous qui va être important. On en parlait déjà à la première édition, c'est la Coupe du Monde des clubs qui en 2025 va passer je crois à 32 clubs, Coupe du Monde des clubs à 32 clubs avec je crois que ça va être 6 ou 8 places pour l'Asie. Donc si jamais l'Arabie Saoudite par exemple gagne les compétitions continentales et parvient à se qualifier, on peut penser qu'il y ait peut-être mettons 3-4 clubs saoudiens dans la Coupe du Monde des clubs. Effectivement là, si tu as des joueurs qui ont déjà fait des grosses saisons qui en plus brillent dans cette compétition là, effectivement là ils pourront devenir éventuellement des candidats potentiels, mais je pense qu'on n'en est pas encore là aujourd'hui.
Merci Stéphane, merci Guy d'avoir été de notre dans Au Bout du Foot, et puis tu reviens merci quand tu veux, hein.
Pas de souci.
Et puis la saison se passe bien.
Au plaisir.
Est-ce que la saison se passe bien?
Ouais, ça va, ça se passe bien. Là, on est promu avec un point d'avance.
Lancy FC, oui, en Suisse. Détroit, voilà. Suisse. Bah, bravo et bonne continuation. Et puis, j'espère merci que tu as une petite pensée pour ton club formateur, hein, le Mans. Ouais, c'est le Mans FC, hein, c'est ça, non?
On les suit, le cœur serré un peu, mais on les suit.
On les suit quand même, n'est-ce pas? Ouais, salut à toi, et puis.
Ils sont en dentiste, et puis voilà.
Ouais. Tu reviens quand tu veux, à très très vite. Hein. Merci, Guy.
Avec plaisir.
Les amis, au bout du foot, c'est déjà fini aujourd'hui. Hein. Merci d'avoir été là. Jason Lidor réalisé donc au bout du foot, deuxième édition, avec Salé Dembélé, avec El Hadj, avec Stéphane Desenclos, avec Philippe Carnu et Aboubacar Konté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Dès lundi, puis, Malik.
Ah, ben dès lundi, c'est vrai.
Ouais, le ouais. Du foot qui vient en hebdomadaire. Ouais.
Dès lundi, à partir de 20h30.
Hein, ouais, il fait la passerelle avec mon Paris Sport.
Avec mon Paris Sport de notre ami Philippe Carnu. Soyez fous.
Relais comme ça.
Soyez fous, soyez foot. Ciao.
Lancer le générique avant là. Abou, tu crois ça ou tu ne crois pas ça?
J'ai